C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Nous sommes très heureuses et heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de C'est dans l'art. Et pour commencer cette nouvelle étape, nous avons l'immense joie de nous trouver au 104, en ce moment même, en plein cœur du 19e, à l'occasion de la Biennale des Arts Numériques qui démarre maintenant. Et oui, cette année, on commence fort. Mais alors, pourquoi la Biennale des Arts Numériques ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Nous l'avons décortiqué l'an passé, l'art est partout. Il se modélise sous forme de mots, d'objets, de mouvements, de sons, mais aussi de silence, d'absence et de non-dit. Ce qui est sûr, c'est que l'art ne cesse de se renouveler et le numérique, les nouvelles technologies, le bouleversent toujours plus. Alors pour cette deuxième saison, on a voulu être sur place, au plus proche de ce qui se fait. Et quoi de mieux que de tendre nos micros à ceux qui créent aujourd'hui ? Chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieuses, curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art et c'est avec une émission spéciale que nous vous accueillons ce samedi au plus proche de l'art. Alors pour ceux qui nous écoutent, imaginez un lieu culte qui accueille sous ses grandes voûtes de l'art à n'en plus finir, un public qui déambule au gré des œuvres, une équipe prête à interroger les artistes. Voilà à quoi ressemble le lancement de la Biennale des Arts Numériques avec nous dans les parages. Les Illusions Retrouvées, c'est la nouvelle édition de la Biennale qui prend vie ce samedi grâce à la région Île-de-France qui a largement contribué à son existence. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Elle abrite quoi, cette Biennale ? Des expositions, des installations grandeur nature, des concerts et spectacles vivants autour du numérique pendant 3 mois. Le but ? Explorer les nouvelles utopies à l'ère du numérique. Ce seront 3 mois d'images, de lumière, de sons et de performances audiovisuelles au service d'histoires qui n'ont pas encore été racontées. 3 mois de découvertes qui se nichent dans plus de 24 lieux répartis dans toute la région Île-de-France. Et pour aujourd'hui, nous sommes au 104, en plein cœur du lancement. Alors accrochez-vous, nous partons pour 2 heures de direct à écouter sur Internet depuis le site de Radio Campus Paris ou en DAB+. Allez, il est temps de découvrir ceux qui sont présents avec nous à ce lancement.
Sommaire de cette édition particulièrement spéciale de C'est dans l'art à Paris, au 104, dans la Halle Aubervilliers avec l'équipe. Je reçois Franck Vigroux pour sa performance ce soir pour l'inauguration de la Biennale. Vous avez l'habitude, Jeanne vous propose un tour de ce qui se fait dans le Grand Paris et il est évidemment question de l'agenda de la Biennale. Avec son invitée, Juliette Lefay, Mathilde interroge le rapport entre les plantes et l'intelligence artificielle. Hugo nous donne son humeur du jour. Ryan est avec Donatien Aubert et parcourt l'héritage de Jérémy Bentham. Hugo, toujours le même, explore avec Caroline Delétoile les sensations quantiques. Je vous propose une vision très personnelle d'un des lieux de la Biennale des Arts Numériques. Un indice, ça se passe dans le Val d'Oise. Isnel décrypte avec David Passegand de Inouk les deux œuvres du bureau de design numérique exposé au 104. Jeanne est avec Anne Bourassé, Mounir Ayash pour l'extension du désert de Retz. Et vous allez voir, c'est particulièrement lumineux. Ces 2 prochaines heures, nous échangeons aussi avec vous, le public du 104, pour connaître vos impressions, vos visions ou encore vos envies à propos de cette biennale. Nous avons pour vous un zapping sonore de ce qui se fait dans la Biennale pour vous donner l'envie de faire un saut au 104 rue d'Aubervilliers. Mais d'abord, Léa est avec le directeur artistique de la Biennale. Gilles Alvarez nous rejoint dans pas très longtemps et je dis ça pendant qu'il s'est assis autour de la table. 60 expositions, concerts, performances, spectacles et j'en passe. Nous n'abordons pas tout en 2 heures, c'est certain. Par contre, vous donnez l'envie d'explorer la Biennale partout en Île-de-France ces 3 prochains mois. Nous sommes là pour ça. Je suis Fabrice. C'est parti pour 2 heures utopiques, numériques et artistiques.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Il est le directeur artistique de Nemo, la Biennale internationale des arts numériques de la région Île-de-France. Il est notre premier invité et au micro d'Eléa.
Qui a dit que le numérique devait être exclu de l'art ? Après des années de création et de réflexion autour de la machine, de l'humain, de la lumière, Gilles Alvarez, directeur artistique de la Biennale, continue de faire ce pari et de l'exposer au grand public. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Comment vous sentez-vous ?
Très bien. Là, c'est l'expo est lancée, le vernissage est lancé, Les politiciens ont parlé, les discours ont été faits. Maintenant, c'est place aux spectateurs pour découvrir cette sixième édition de la Biennale et qui fête de fait son dixième anniversaire.
Effectivement, on est sur la dixième année que nous faisons cette Biennale. Alors, de nos jours, pas vraiment de nos jours, ça fait un petit moment maintenant que le numérique est partout. Comment on fait aujourd'hui pour mettre en avant des créations issues de l'art numérique ?
Bah, écoutez, le numérique est partout. Il est partout dans nos vies, mais il n'est pas partout dans l'art. Je pense qu'il y a une grande différence aujourd'hui entre l'art numérique et l'art contemporain. Et je pense que beaucoup de problématiques qui sont liées à notre ère numérique ne sont pas du tout traitées par l'art contemporain, par exemple. Donc, nos vies sont vraiment inféodées au numérique, mais il y a des formes d'art qui passent complètement à côté. Je pense que c'est précisément le cas de l'art contemporain qui est sur des problématiques complètement différentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, le spectacle vivant, en revanche, lui, s'est emparé des questions numériques avec des pièces qui sont soit technologiquement assez sophistiquées, soit tout simplement qui parlent de encore une fois, de cette société numérique dans laquelle on vit et qui nous a servi un petit peu.
Donc le numérique permet d'avoir une autre vision de questions très actuelles. Qu'est-ce qu'il apporte en plus, le numérique ?
Bah, en fait, ce qu'il apporte le plus, c'est pour moi quand même la beauté, quoi. C'est des nouvelles formes de beauté, des nouvelles esthétiques qui adviennent avec des nouvelles inventions numériques. Évidemment, vous vous doutez bien que cette année, on a beaucoup d'œuvres qui jouent avec l'intelligence artificielle. Plus exactement, qui l'utilisent intelligemment, qui sont pas du tout pour qui asservissent en aucun point les artistes, mais les artistes s'en servent. Et j'aime bien cette phrase qui consiste à dire que l'intelligence artificielle doit être aux artistes que Watson est à Sherlock Holmes, quoi. C'est-à-dire quelque chose qu'on utilise, on lui pose des questions et on rebondit sur ses réponses. Et voilà, je pense que ça fait partie de cette édition. Elle est un peu partout, l'IA, mais pas que, puisque par exemple on a décidé de s'intéresser à la physique quantique aussi, à la future informatique quantique, pour toujours créer un lien entre art et science, en fait. Voilà, donc voilà ce qu'apporte au gros le numérique.
Alors là, on est sur une toute nouvelle édition qui vient de se lancer, qui s'appelle Les Illusions Retrouvées. Pourquoi ?
Ben écoutez, on dit souvent qu'une manifestation d'art numérique, ça doit révéler les biais négatifs du monde numérique. Et Dieu sait s'il y a des biais négatifs dans cet asservissement au numérique. Cependant, on peut avoir envie aussi de parler de futurs désirables de temps en temps, de faire un petit peu autre chose. Et puis de continuer à fasciner les gens avec des formes nouvelles. Et voilà, donc l'utopie, c'est un lieu qui n'existe pas, mais dans lequel tout se passe bien. Il y a les illusions perdues de Balzac, mais nous, on a voulu faire les illusions retrouvées, c'est-à-dire mettre un petit peu d'optimisme dans tout ça, présenter par exemple une section qui s'appelle un monde nouveau, dans lequel toutes sortes d'espèces cohabitent pacifiquement, que ça soit des post-humains, des nouvelles espèces animales, des cascades de fleurs, des machines qui transforment la voix humaine, d'autres où on peut ressentir, on peut visualiser et entendre le ressenti des plantes quand on les approche et qu'on les touche, par exemple. Donc une sorte de jungle pacifique dans laquelle on se perd et voilà.
Alors voilà, les illusions retrouvées se centrent, comme vous l'avez dit, sur la notion d'utopie en grande partie. C'est intéressant d'avoir choisi cet axe-là pour le confronter au numérique. L'utopie relève quand même de l'imaginaire, là où le numérique se base sur de la valeur, du concret. Comment on fait dialoguer ces deux choses qui, à la base, n'ont rien à voir ?
Y a plusieurs manières de vous répondre. Moi, je pense que, par exemple, peut-être la meilleure réponse que j'ai trouvée à votre question, c'est de parler de l'histoire de l'utopie, donc de revisiter d'anciennes utopies, que ce soit des personnages qui ont été complètement en avance sur tout, notamment une certaine Margaret Cavendish, par exemple, qui était une autrice féministe qui a écrit le premier roman de science-fiction en 1666, ce qui est quand même pas rien, et de la faire revivre grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on a repris des tableaux, des portraits d'elle, on les a fait animer par Inouk, justement, je crois que vous allez les recevoir aussi dans
tout
l'émission.
Tout à l'heure, on les reçoit, effectivement.
Et effectivement, on réenchante des tableaux et des peintures, par exemple. On réenchante la Galerie du Temps aussi du Louvre-Lens. On fait revivre d'anciennes technologies comme le métier jacquard ou les lithophanies, par exemple, qui sont des technologies, a priori, qu'on n'utilise plus beaucoup. Mais on présente de vraies lithophanies qui ont été faites par impression 3D. Normalement, c'était de la sculpture, même la porcelaine. Là, c'est de l'impression 3D. Mais on mélange dans le résultat final. On voit à la fois des paysages un peu angéliques, comme ça, avec des sortes de dieux qui sont dans la nature. Mais c'est mélangé avec des fermes, des data centers et des fermes de données, etc. Donc, on mélange vraiment. On parle des nouvelles technologies en faisant revivre d'anciennes technologies.
Le passé.
Ça, c'est aussi, voilà, et par exemple, une œuvre aussi visionnaire que le fameux discours de Philippe K. Dick qu'il a donné en 1977 au Festival de science-fiction de Metz, dans lequel il a évoqué l'existence de plurivers, en fait, quand il appelait pas ça encore plurivers, mais il disait qu'il y avait des univers multiples qui étaient en parallèle et que c'était pas une fiction, que c'était vraiment la réalité pour lui et que en gros c'était Dieu qui était le programmateur, reprogrammateur de nos vies. Voilà, notre artiste a trouvé le moyen de le transformer en sculpture robotique, et on réentend et on peut réécouter ce discours qui était totalement visionnaire. Maintenant, on parle plus que de plurivers, métavers, blabla, mais lui, il avait inventé ça bien avant tout le monde, et on le fait revivre voilà, dans une espèce de machine qui ressemble à un totem un petit peu messianique.
Donc on peut replonger dans le passé, découvrir un futur ou des mondes totalement différents. Alors cette année, les œuvres sont réparties dans plus de 24 lieux dans toute la région. Pourquoi c'est important de s'étendre dans tout cet espace géographique ?
Bah, écoutez, pour une raison évidente, c'est que d'abord, c'est la biennale de la région Île-de-France. Donc nous sommes financés par la région Île-de-France et nous devons donc sortir de Paris et être présents un peu partout en Île-de-France. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est de pouvoir, outre le navire amiral qui est le 104, évidemment, c'est d'être dans toutes sortes de lieux qui sont très différents les uns des autres. Donc on a des scènes nationales, par exemple, le Théâtre des Gémeaux à Sceaux ou la MAC de Créteil, etc. Mais on a aussi des galeries d'art qui sont plus petites, évidemment. On a des lieux de musique actuelle.
Des jardins aussi, j'ai vu des lieux extérieurs.
Absolument, on fait redécouvrir le désert de Retz, qui est une utopie architecturale du XVIIIe siècle, qui est présente à la fois sous forme de sculpture, qui revisite tous les bâtiments et qui est présente dans l'expo 104. Mais on organise aussi une visite du vrai désert de Retz, qui donc est à Chambourcy dans les Yvelines. Et les gens vont découvrir ce lieu patrimonial totalement utopique et bizarrement assez inconnu. Donc c'est aussi une manière de réenchanter le patrimoine.
C'est quoi le pari le plus fou avec la biennale de cette année ?
Alors le pari le plus fou, c'est de donner l'impression aux gens qui vont passer dans l'au-delà, je dirais, avec une pièce qui est pour moi mon coup de cœur absolu, qui s'appelle « Je suis une montagne » de Eric Arnal Burchi, qui est une pièce dans laquelle il y a 60 spectateurs qui sont installés sur des transats mobiles, et pendant une heure, ils reçoivent de la lumière, de la chaleur, du froid, même de la pluie leur tombe dessus, avec une musique extrêmement lyrique, un peu répétitive, mais extrêmement lyrique et de plus en plus lyrique, et une espèce de montée comme ça, complètement mystique, même si on n'est pas du tout mystique, on le devient, et on a l'impression à la fin qu'on est en train de vivre, de passer dans l'au-delà, quoi. On se dit que c'est peut-être ça, le moment lumineux où on passe dans l'au-delà, etc. Et pendant deux heures, on est complètement stupéfait, on peut plus rien voir d'autre, etc. Pour moi, ça, c'est le spectacle que j'ai vu le plus troublant depuis 20 ans, quoi.
Pour terminer, après avoir visité la biennale, qu'est-ce qu'on devra retenir sur les illusions retrouvées ?
Bah, il faudra retenir qu'on est dans une grande période de créativité. Effectivement, les technologies arrivent, certaines sont très vite obsolètes. On fait tout un foin avec le métaverse ou la VR, par exemple, qui sont des choses totalement obsolètes, surtout la VR. Alors qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle, par exemple, on est en train d'inventer, mais de tout réinventer, quoi. Et j'ai rarement vu aussi vite les artistes s'emparer d'une nouvelle technologie, d'autant plus qu'elle est relativement décriée aussi, parce qu'on sait qu'elle a des défauts. Mais c'est un outil tellement fantastique de création que je pense que c'est ça qu'il faut retenir, en tout cas, de cette édition.
Merci beaucoup, Gilles, d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir mis en place toute cette biennale.
Avec grand plaisir. Merci.
Et merci Léa. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Radio Campus Paris sur Internet et en DAB+, et vous êtes avec nous à Paris au 104 rue d'Aubervilliers pour l'inauguration de la Biennale des Arts Numériques de la région Île-de-France. Les festivités sont déjà bien lancées et d'ailleurs nous avons un échantillon de ce qui se fait ici. Tendez l'oreille.
En 2015, pour bénéficier d'un environnement fiscal plus adapté, le Néo-Consortium a transféré son siège social sur la Lune. Dès 2018, le Néo-Consortium crée le Bureau de l'anticipation des désastres. Ce service est dédié à la production d'œuvres d'art commémoratives destinées à accompagner les multiples disparitions qui jalonneront l'Anthropocène. 2021, le Néo-Consortium crée l'art panoptique et révolutionne le rôle de l'art dans l'espace public en inventant la première œuvre d'art de surveillance. L'année prochaine, le Néo-Consortium fêtera son tricentenaire. Découvrez l'ensemble de nos solutions plastiques sur neoconsortium.com. Le Néo-Consortium s'engage à micro-compenser l'ensemble de ses activités.
avoir un aperçu de ce qu'on entend à la Biennale. Voilà de quoi donner le ton. À vous de venir voir ce qu'il se passe vraiment. Vous écoutez C'est dans l'art, le rendez-vous de culture de Radio Campus Paris. Émission spéciale au 104 pour l'ouverture de la Biennale des arts numériques.
Architecture,
sculpture,
musique,
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
À présent, plongeons dans un jardin spécial non loin de Paris avec Jeanne qui tend le micro à Anne Bourassé et Mounir Ayache.
Anne Bourassé et Mounir Ayache, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission spéciale en direct du 104 à Paris pour l'inauguration de la Biennale des Arts Numériques. Pour vous présenter brièvement, Anne Bourassé, vous êtes commissaire d'exposition, autrice et travailleuse de l'art indépendante, diplômée entre autres des arts déco de Paris. Votre travail se situe souvent à la croisée des arts visuels et des humanités. Mounir Ayache, vous êtes artiste diplômée des Beaux-Arts de Paris. Vos créations utilisent la technologie, souvent la lumière d'ailleurs, et puis les codes de la science-fiction. Et ensemble, aujourd'hui, vous présentez le désert de Retz 2, qui se situe au chapitre Renaissance de l'exposition que nous découvrons aujourd'hui. Alors, pour commencer, remontons un peu dans le temps, si vous voulez bien. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française. Et là, François de Monville, un homme des Lumières, passionné d'architecture, de botanique et de musique, décide de faire l'acquisition d'un grand parc dans les Yvelines. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parc et qu'est-ce qu'il va devenir à l'origine ?
Alors, Anne Bourassé. Désert de Retz, c'est un... Donc, le désert de Retz, François Racine de Monville le rachète en 1774. C'est un lieu qui est juste une forêt. C'est un grand parc qui prend 38 hectares. C'est un homme très riche à l'époque, puisqu'il est descendant d'une famille de collecteurs d'impôts sur le sel. Donc on parle d'une personne richissime qui va, en fait, pour se divertir, racheter cette forêt, qui va nommer le désert de Retz. Le désert, à l'époque, au XVIIIe siècle, le mot désert signifie un endroit où on se retire du monde, un endroit où on va flâner, se replier sur soi-même. Et donc il va créer un peu cet espace bulle, qui aujourd'hui est dans la forêt de Chambourcy, où il va construire 21 architectures inspirées des grandes conquêtes coloniales de l'époque et des missions civilisatrices de la France. Donc on a une tente tartare, une maison chinoise, une tour de Babel, une obélisque, une pyramide, voilà, toutes ces architectures un peu folles. Et nous, on est parti de cette histoire-là avec Mounir pour penser en fait une suite, une friction politique ou une fiction poétique à partir de ce lieu.
Oui, donc ce désert, donc ce grand parc, passe de main en main pendant presque 150 ans, non plus, 200, bon, le calcul n'est pas bon, mais vous avez compris, jusqu'à son acquisition en 2007 par la mairie de Chambourcy, donc cette commune des Yvelines, qui décide de l'ouvrir au public. Aujourd'hui, on peut le visiter, on en reparlera un petit peu après. Donc vous le découvrez, et qu'est-ce qui déclenche votre envie à ce moment-là d'en faire la base d'un projet artistique ? Vous en avez parlé, c'est l'idée d'en faire une extension. C'est pas tellement une reconstitution, c'est vraiment l'étendre vers autre chose.
Oui, c'est une réinterprétation donc à notre époque et avec les enjeux qu'on a actuellement. Et alors on s'est un peu amusé à faire des parallèles entre voilà le contexte de l'époque et maintenant. Et donc nous on a proposé cette installation d'abord là dans la Biennale Nemo où on va venir combiner à la fois des relevés qu'on a fait au drone sur place, donc des scans 3D, tout un travail de recherche, d'archives, et après notre interprétation du lieu, et notamment les textes que Anne a écrits qui sont présentés dans les sculptures. Et on va venir combiner tout ça, et là, c'est un peu la partie art numérique du projet, c'est qu'on va venir utiliser des modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre de faire de la reconstitution à partir des plans d'époque, tout ce qui n'a pas survécu jusqu'à nous. Et de venir faire un mix de toutes ces techniques et de proposer ces objets qu'on peut voir dans l'espace d'exposition.
Alors concrètement, pour nos auditeurs, auditrices qui n'ont pas vu votre œuvre, qui ne l'ont pas encore vue, qu'est-ce qu'on voit dans cette pièce ? Est-ce qu'on peut parler de sculpture ? Pas vraiment, c'est plus... Expliquez-nous.
C'est une installation. Donc oui. Imaginez que vous arrivez dans un espace très liminal, blanc, très épuré. C'est une scène de fin de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui, j'allais venir, on sent quelques références culturelles glisser.
Et bien sûr, et on voulait en fait vraiment cette projection science-fiction. Et donc on fait un voyage dans le temps, c'est une architecture qui date du 18e et nous on la renvoie vers 2050 et plus. Et donc cet espace blanc avec ses panneaux LED, il vient illuminer, il vient révéler ces architectures qui sont réalisées en impression 3D avec des sculptures sur pied qui sont inspirées du XVIIIe siècle. Et donc c'est une série d'architectures, une série de sculptures dans une installation. Il y a également un son qui vient créer une atmosphère. Ce son, il n'est pas anodin puisque François Racine de Monville écrivait des partitions. Il était compositeur et donc on a retrouvé dans les archives les partitions qu'on a fait réinterpréter par une intelligence artificielle qui est venue composer la musique qui accompagne l'installation.
C'est ça qui est intéressant, c'est que on voit votre travail d'archive et on imagine qu'il y a eu tout un débat entre ce qu'on réinvente et ce qui est vraiment ce qu'on peut vraiment voir dans le parc aujourd'hui. Il y a toute une partie d'invention par rapport aux matériaux historiques.
Ouais, je pense comme beaucoup de, enfin, c'est des questions qui se posent pour le patrimoine parce qu'il y a entre nous les images qu'on a, les plans qu'on a d'époque et ce qu'il y a maintenant. Il y a des grosses différences puisqu'il y a eu des rénovations, il y a eu des réinterprétations et on vient même questionner aussi. C'est le cas de la tente tartare. Voilà quelque chose qui était inspiré de la Thaïlande par quelqu'un qui n'y est jamais allé, qui a juste vu une autre tente donc du pays de Siam à l'époque, qui était jaloux, qui voulait la même. Tout le monde voulait la sienne à cette époque. Et là, par exemple, on s'est permis de venir remettre des vrais motifs thaïlandais traditionnels et pas juste l'invention d'un Français qui pense que c'est thaïlandais. Donc c'est des petits clins d'œil comme ça, tout en partant vraiment voilà de... C'est un mix, en fait, de toutes ces
influences. Oui, et puis des clins d'œil aussi sur le fait que c'est pas seulement une représentation, c'est vraiment un enrichissement, notamment avec pas mal d'éléments sociaux, historiques sur le contexte. Il y a tout un parallèle entre la colonne détruite et la fin de la monarchie à ce moment-là, de la création de ce jardin. On a aussi... il y a du sel partout. Alors, est-ce que vous avez utilisé du vrai sel? Je ne sais pas, mais pour faire référence comme ça au statut économique dominant de François de Monville au moment où il crée ce petit parc de loisirs. La Biennale s'appelle Les Illusions Retrouvées. Est-ce que ça a eu un sens particulier pour vous de faire renaître le projet ambitieux, utopique à ce moment-là de François de Monville aujourd'hui?
Nous, c'est moins la naissance du projet que la chute du projet qui nous a intéressés avec Mounir. Ce désert de Retz, en fait, François Racine de Monville, il y reçoit toutes les personnes importantes de l'époque, donc les rois, les ducs étrangers. Marie-Antoinette vient boire son lait là-bas. Il est très proche des francs-maçons. On raconte aussi que la constitution américaine se serait écrite en partie au désert de Retz. Voilà, il y a toute une mythologie aussi, beaucoup de conspirations. Et sentant le vent tourner, la terreur qui arrive, François Racine de Monville revend le désert de Retz à un dénommé Disney. Pour la blague. Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'est que le désert de Retz, il chute, il finit à cette époque-là, à un moment donné où il y a un basculement politique en France, puisqu'on est à la veille de la Révolution française. Et on a fait un parallèle direct avec ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui en 2025 en France, en faisant des parallèles entre la chute de la monarchie et la dissolution.
Oui, je pense que cette semaine, on est bien, bien dans le thème.
On se disait que ça nous confortait chaque fois un peu plus dans le choix du sujet.
Exactement. En complément de l'installation qui est présentée aujourd'hui, la Biennale, elle se poursuit dimanche prochain, le 19 octobre, au Jardin de Retz. Vous allez présenter une installation vidéo dans le temple du dieu Pan, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on pourra y voir?
Alors, là, on part, donc le titre de la vidéo qui s'est présentée du court-métrage Désert de Retz, Révolte, qui est un peu un prolongement de ce qu'on peut voir dans cette exposition. Et là, on est parti plus sur l'esthétique vraiment du jeu vidéo. Et bon, quelque chose qui est assez récent, c'est le fait de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo. Donc ce qu'on va voir, c'est un gameplay comme ce qu'on peut voir sur Twitch. On va regarder quelqu'un jouer et ces jeux qui sont plus qu'on appelle RPG. Et là, on va avoir un système de quête. On va venir explorer les fabriques. Et alors là, je laisse aux gens le suspense et l'envie de venir. Donc voilà, pour débloquer une sorte de mystère ou de quête, quoi. Voilà, on va réunir des indices.
Pour découvrir ce travail au Jardin de Retz, c'est au bout du RERA. Donc on prend le RERA jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, puis un bus... jusqu'à la commune de Chambourcy. Ensuite, on fait une petite balade dans la forêt parce que c'est joli, c'est l'automne. Et on arrive au désert de Retz qui sera ouvert dimanche prochain à partir de 13h. C'est gratuit pour tous. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a aussi une navette qui part du 104.
Alors... Tout à fait. Il y a navette du 104 et puis il y aura aussi des navettes du RER. C'est la ville est très impliquée dans le projet, la ville de Chambourcier. On a eu aussi le soutien de l'association des Amis du Désert, parce qu'aujourd'hui ce lieu il vit,
ouais,
il vit
une partie de l'année. La semaine prochaine.
Exactement.
Aussi,
ouais. Et c'est en fait des anciens qui font les visites et qui sont très passionnés par ce lieu. Donc on voulait aussi les remercier parce que
exactement.
C'est grâce à eux qui nous ont transmis cette histoire.
Et on les remercie tous et on vous remercie vous d'être passés dans notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup Anne Bourassé et Mounir Ayache.
Merci.
Peut découvrir votre travail pendant la Biennale.
Et merci à toi, Jeanne. Donc, le désert de Retz 2 est à voir dans la Halle Aubervilliers, dans la partie Renaissance, aujourd'hui au 104. Nous sommes aussi, comme on l'a dit avec Jeanne, dimanche 19, pas demain, mais la semaine prochaine, dans les Yvelines à Chambourcy pour un dimanche après-midi au désert de Retz. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Radio Campus Paris sur Internet et en DAB+, et vous êtes avec nous à Paris au 104 rue d'Aubervilliers pour l'inauguration de la Biennale des Arts Numériques de la région Île-de-France. Et maintenant, levons un peu la tête.
Vous l'avez entendu, nous sommes en plein 104 à Paris 19 pour ce lancement de la Biennale. Alors voilà, on a voulu tendre le micro à des gens qui sont avec nous aujourd'hui. On voulait sonder un petit peu comment est-ce qu'ils se sentaient, leur poser des questions. Je vois qu'il y en a qui hésitent à venir.
Effectivement, des personnes autour, dans la salle aussi qui passent, qui s'interrogent un peu. Est-ce que autour de nous, il y a une personne, une âme courageuse qui a envie de tenter sa chance pour expliquer un peu quel est son ressenti, qu'est-ce qu'il perçoit un peu de la Biennale, quelles sont un peu ses premières impressions, ou si d'ailleurs, au passage, il est parti voir une des expos.
Bon, moi déjà, je peux donner un peu mon avis parce que j'ai pris le temps d'aller voir ce qui se passait juste avant de démarrer cette émission. Et c'est vrai que c'est très impressionnant ce qui se passe au 104. On a des énormes installations qui sont côté Aubervilliers. Il y a du son, il y a de la lumière, il y a des projections dans le futur et même dans des mondes qui n'existent pas. C'est vraiment impressionnant. Fabrice, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, hier, on a eu la chance, donc avec l'équipe de Radio Campus Paris, une partie en tout cas, de visiter en avant-première l'exposition. Je tiens à dire que c'est particulièrement impressionnant, les différents espaces qui se regroupent entre l'espace Renaissance, l'espace Un Monde Nouveau, aussi les quantiques de la mécanique quantique, si je me rappelle bien en tout cas du nom. Et puis, on est vraiment fasciné par la prise en main de l'intelligence artificielle et surtout le fait de se dire que finalement elle est complètement décriée, elle se développe très vite, elle est décriée notamment par les artistes et elle est quand même prise en main par les artistes qui sont là, qui se sont représentés au cœur du 104 rue d'Aubervilliers et ils ont pris ça en main, c'est pas encore parfait. Mais c'est plutôt pas mal. Et on a une courageuse avec nous qui s'est assise autour de la table de Radio Campus Paris, autour de la table de C'est dans l'art. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Guylaine.
Allez Guylaine, on vous remercie d'être venue sur ce plateau pour donner un peu vos impressions de ce qui est en train de se passer en ce moment même à la Biennale. Vous avez eu le temps de faire un petit tour déjà ?
Oui, j'ai eu le temps de faire tout le tour.
Alors qu'est-ce qu'on en pense ?
Je pense que j'ai rien oublié. Eh bien, c'est très varié.
Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a marqué en particulier ?
Il y en a plusieurs qui m'ont marqué en particulier. J'ai beaucoup aimé celle de, j'ai oublié son prénom, mais Polly, donc qui est sur la physique quantique avec l'infiniment petit. Ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique.
Qu'est-ce qui vous a ému là-dedans ?
La notion de tissage au début, ça crée des très très belles images. En fait, j'ai vu beaucoup de choses un peu numériques comme ça sur la Fête des Lumières à Lyon. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus subtil et doux. Alors qu'il y a aussi beaucoup d'images, beaucoup de transformations, beaucoup de couleurs, beaucoup de matière. Et voilà, j'ai trouvé celle-là, elle m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi les oiseaux. Enfin, les images générées par des chants d'oiseaux, des chants de la nature.
Voilà, alors pour remettre un peu en contexte, on entre dans une sorte de bulle noire où il y a des écrans tout autour.
On se couche par terre.
Exactement, on se couche par terre. Il y a des coussins en tout cas qui sont prévus à cet effet. Et on entend des bruits d'oiseaux et ces bruits sont modélisés par des formes un peu abstraites de couleurs. Et c'est vrai que c'est impressionnant. On est au milieu d'un champ et en même temps au milieu d'un univers coloré. Vous avez ressenti quoi quand vous avez vu ça ?
J'étais partie dans une nature très enchanteresse, très doux, très belle, très protectrice, très joyeuse aussi, très Colorées, puis les formes sont... C'est un peu comme quand on ferme les yeux, puis qu'on voit plein de petits trucs sur nos yeux, là, qui bougent, et, sauf que c'est mieux, avec des couleurs, des sons. Et puis j'ai beaucoup aimé la toute première œuvre, quand on rentre, là, sur la gauche, avec les tableaux qui chantent. J'ai beaucoup aimé cette œuvre-là.
Eh ben, on vous invite tous à y aller. Un énorme merci, Guylaine, d'être venue et d'avoir dit ces quelques mots sur la Biennale. Voilà, merci. Vous l'aurez compris, on veut faire vraiment parler tous ceux qui sont autour de nous pour que ce soit une expérience commune. Merci à elle d'être venue et d'avoir prêté sa voix.
Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'émission C'est dans l'art qui est aujourd'hui au 104 rue d'Aubervilliers, notamment pour la Biennale des arts numériques de la région Île-de-France. Et j'allais dire que la personne qui nous a rejoint du public, je ne me rappelle plus son nom, Léa.
Guylaine.
Mémoire de poisson rouge pour un hypermnésique, c'est incroyable. Qui nous a fait une belle transition, faire danser les œuvres du Louvre-Lens, le pari réussi de Inouk, le bureau de design numérique qui rend hommage à une femme féministe avant l'heure, Margaret Cavendish, on en a parlé avec Gilles Alvarez, le commissaire et le directeur artistique de la Biennale. Isnel est avec David Passegand de Inouk cet après-midi. Isnel.
Bonjour David Passegand.
Bonjour.
Vous êtes l'un des du duo de Inouk, connu pour ses créations poétiques et lumineuses, notamment avec les Anoukis, ces petits personnages espiègles qui ont fait danser les façades du monde entier. Et aujourd'hui, à la Biennale Nemo, vous nous présentez deux œuvres très différentes. Hommage à Margaret Cavendish, une expérience interactive qui permet au public de dialoguer avec une philosophe du XVIIe siècle grâce à l'intelligence artificielle. Et le mégamix du Louvre Lens, une vidéo mapping musicale. Où
du Louvre Lens, de la ville de Lens.
Ah, Lens, pardon. Donc, j'ai cru que c'était anglais. Merci beaucoup. Oui, et où les tableaux se mettent à chanter du AC/DC jusqu'au coron. On va parler de mémoire, de technologie et d'illusions retrouvées. Ma première question, ce serait comment est née cette idée un peu folle de faire parler Margaret Cavendish, une femme du XVIIe siècle avec une intelligence artificielle?
Alors ça, c'est une collaboration avec le 104. Margaret Cavendish, c'est effectivement une romancière du 17e, qui est un peu précurseuse de la science-fiction. Elle inventait des mondes incroyables, comme elle le dit, peuplés d'hommes ours, de créatures étranges. C'est aussi un peu une précurseuse c'était un personnage un peu queer. Elle avait inventé un double dont elle était amante dans ses romans. Au 17e, ce qui était donc c'est une idée de Gilles Alvarez qui nous a proposé d'imaginer ce dialogue imaginaire entre Margaret Cavendish et un tableau qui serait une espèce de personne qui pourrait lui répondre. Donc on a créé ce dialogue. Et on voit ces deux personnes se répondre, ça dure deux minutes, c'est une petite introduction à cet univers. Et puis il y a à côté de ça, dans cette salle, la possibilité de scanner un QR code, et alors c'est pas nous qui l'avons réalisé, mais une IA nous permet de dialoguer avec son téléphone, avec le personnage de Margaret Cavendish. Cette IA a été alimentée par les romans et par l'histoire de Margaret.
D'accord, et donc justement, dans cette œuvre, le public, donc on peut discuter avec elle. Est-ce que vous diriez du coup que vous lui redonnez une voix ou que vous en inventez une nouvelle?
Alors on invente une nouvelle voix, évidemment. C'est une voix IA. C'est une voix IA, mais qui est en fait, pour vous donner un peu le petit truc, c'est ma voix qui a été transformée par l'IA.
D'accord.
Donc j'ai fait l'acting de Margaret. Et ce qui est étonnant, c'est que par contre l'IA, donc c'est une IA qui est générée uniquement par la voix, donc par un dialogue, une source audio. Et ce qui est étonnant, c'est que l'IA a interprété les gestes du corps de ce tableau et l'acting du corporel du tableau en fonction des intonations de la voix. Donc il y a eu pas mal de tests de bidouilles pour arriver à faire en sorte que l'IA interprète correctement. J'en ai rajouté un peu dans des rires et des choses comme ça, pour que ce soit assez vivant.
Et donc justement, Comment est-ce que vous transformez cette technologie en matière émotionnelle, puisqu'on parle beaucoup des dangers de l'IA, et pour vous, finalement, c'est devenu presque un outil poétique, presque sensible, puisque vous dites qu'elle a été capable d'interpréter à partir de votre voix, les gestes, justement, ce que j'ai pu voir hier aussi au vernissage, ce que ça a donné. C'est vrai qu'on la voyait se mouvoir avec sa caméra, donc c'est assez impressionnant.
Ouais, mais nous-mêmes, on a été émus par ce qui sortait de l'IA. L'IA, il y a ce truc génératif, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on injecte des choses dans l'IA et puis elle nous recrache des choses, elle nous ressort des choses, elle accouche elle-même de visuel, donc il faut un peu le maîtriser, mais on n'obtient jamais ce qu'on souhaite. Il faut pas essayer d'être trop directif avec l'IA. L'IA va interpréter elle-même des choses. Donc il y a un truc un peu impressionnant qui est que cette forme d'intelligence, si on peut appeler ça entre guillemets une intelligence, on entre en dialogue avec elle et elle nous sort des émotions. Et c'est vrai que la première fois qu'un tableau s'anime, il y a toujours une espèce d'émotion. Alors nous, ça fait depuis un moment maintenant qu'on anime des tableaux, mais à chaque fois, il y a une espèce d'émotion qui se produit quand on le voit prendre vie. Ouais.
Oui. Et sinon, on vous connaît pour vos créations festives, lumineuses et collectives, comme avec les Anoukis, le Méganix du Louvre-Lens. Mais avec Margaret Cavendish, justement, vous explorez quelque chose de beaucoup plus médiatif, presque intime. Est-ce que c'est un peu une rupture ou une continuité pour vous de vos œuvres d'art ?
Ben, c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 ans qu'on fait chanter les tableaux avec des projets très festifs et très joyeux. Et cette idée de faire rentrer Margaret Cavendish dans une rencontre un peu plus émotionnelle, ça nous ouvre des portes et on aimerait bien continuer d'explorer ça. Mais on aimerait bien... Alors, il y a aussi une piste qu'on aimerait explorer qui est de faire une rencontre entre une IA comme ça générée et numérique et le live, c'est-à-dire ce serait intéressant d'imaginer aussi la rencontre avec un comédien, une comédienne ou avec une personne réelle, en tout cas faire rencontrer le spectacle vivant et le spectacle immersif, c'est une piste qu'on aimerait explorer, qu'on a un tout petit peu effleuré par moment. On pourra en reparler plus tard, mais c'est quelque chose qu'on aimerait explorer.
Oui, c'est super intéressant. Et justement, vos œuvres ont souvent un ton joyeux, accessible, populaire. Et souvent, dans le milieu de l'art contemporain, c'est parfois un peu mal perçu. Est-ce que pour vous, c'est un choix ? Est-ce que c'est un choix, cette accessibilité ?
Alors oui, il y a un côté un peu punk, comme ça, de prendre... Alors là, si on parle plutôt du Megamix, de s'emparer d'une collection d'un musée. Le musée, il n'y a rien de plus vertical et pyramidal qu'un musée. C'est le savoir qui descend aux pauvres êtres que nous sommes, terrestres. Et puis c'est aussi ce poids du patrimoine. C'est ces œuvres qui sont... on a l'impression qu'elles n'ont pas bougé des murs des musées depuis depuis leur création. Et nous, c'est cette idée de s'en emparer, de les étaler sur une table et de jouer comme des gamins avec des œuvres en les déconnectant et de leur parcours pictural, stylistique, historique, et de faire un casting et de jouer comme des gosses. Comme des marionnettes avec ces objets, avec ces personnages. Et puis l'idée aussi de faire rencontrer des monuments du pop et de la rock, du rock et de la pop.
Oui.
Et de se dire aussi que finalement, Highway to Hell d'AC/DC, c'est peut-être un chef-d'œuvre qui a le droit de rencontrer des chefs-d'œuvre de la peinture et se dire que cette rencontre-là peut créer quelque chose d'explosif. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'était très impressionnant de voir ces œuvres d'habitude si sérieuses, d'un seul coup les voir bouger et totalement prendre toutes ces émotions et avec notre culture populaire de l'époque, c'était un mélange assez impressionnant et c'est vrai que ça change. Et enfin, pour finir, cette biennale, du coup, s'intitule « Les illusions retrouvées ». Pour vous, quelles illusions faudrait-il retrouver
Si vous vous sentez inspiré, là, comme ça.
Non, mais c'est peut-être l'idée, oui, de se réapproprier le monde dans lequel on vit et de se réapproprier ce qui nous entoure. Et on fait peuple,
oui.
et de faire peuple, c'est-à-dire de reprendre la main. Voilà.
Oui, et c'est ce que vous cherchez à exprimer en recroisant, du coup.
Tout à fait.
À travers le Méganix, justement.
C'est l'idée de briser la glace,
oui.
Et briser la verticalité aussi.
Super, merci beaucoup.
Je vous en prie.
D'avoir partagé avec nous cette illusion lucide avec nous. Hommage à Margaret Méganix, à Cavendish, pardon, et
j'adore,
au Méganix.
J'adore le lapsus.
Et qui sont justement à découvrir ici au 104 dans le cadre de la Biennale Nemo. Merci encore d'avoir répondu à mes questions.
Et merci Isnel de nous avoir emmenés dans l'univers riche d'Inouk qui fait communiquer des dimensions qui ne devraient pas se rencontrer, spécialiste du design interactif et projection grandeur nature. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Radio Campus Paris sur Internet et en DAB+, et vous êtes avec nous à Paris, en ce moment même au 104 rue d'Aubervilliers, pour l'inauguration de la Biennale des Arts Numériques. Et maintenant, Fabrice a quelque chose à nous dire.
C'est quoi l'Inno maintenant ? Avec la Biennale des Arts Numériques, j'ai découvert que Nemo passe dans la ville dans laquelle j'ai grandi et j'ai repensé à l'Inno. Je suis originaire de la région Île-de-France, du département du Val d'Oise plus précisément. Je suis né à Sarcelles et j'ai grandi à Garges. Chez moi, je suis allé à Europe 2 pour l'école Robespierre 2, à Matisse pour le collège Henri Matisse, puis à Simone pour le lycée Simone de Beauvoir avant d'aller à Paris. À Garges, certaines et certains viennent de Pablo pour le collège Pablo Picasso, d'Arthur pour le lycée Arthur Rimbaud, de Saint-Ex pour l'école Antoine de Saint-Exupéry. Parfois, souvent en fin d'année, on se retrouvait tous à l'Inno, l'espace l'Inno Ventura qui est devenu le Cube Garges, ouvert en 2023, porté par l'association Le Cube.
Le Cube, c'est une association qui a été fondée il y a 25 ans. On était un centre d'art numérique basé à Issy-les-Moulineaux pendant 20 ans. Et on a fermé nos portes en 2022 pour se consacrer entièrement à Garges-lès-Gonesse.
Le Cube, le pôle d'innovation culturelle de la ville de Garges-lès-Gonesse, ou dit autrement ?
Le Cube Garges, c'est le regroupement de tous les équipements culturels de la ville en un seul lieu. Et tous ces équipements sont réunis par ce hall d'exposition. Et 6 équipements en tout, ça fait 10 000 m², donc c'est assez énorme. Et on a accueilli, je crois, demain, on passe normalement cette barre-là, on a accueilli 100 000 visiteurs depuis l'ouverture.
Fini le cinéma Jacques Brel, fini la Maison des Arts Louis Aragon, fini la bibliothèque Elsa Triolet, et bienvenue au Cube. Tous les équipements culturels de la ville y sont regroupés. Et je me demande toujours où est passé l'Inno. L'Inno, pour moi, c'était ça.
L'originalité de cette salle, c'est qu'elle peut être entièrement en black box, c'est-à-dire qu'on peut enlever tous les sièges. Nous, on va le transformer en black box pour des concerts l'année prochaine, de façon à ce qu'on ait vraiment tout l'espace, et que là, on a un espace fausse si besoin.
L'Inno, pour moi, ce sont les spectacles de fin de la Maison des Arts, de fin d'année de la Maison des Arts, des écoles, des collèges. C'est loin pour moi maintenant. Aujourd'hui, l'Inno n'est plus là et Nemo prend temporairement sa place à partir du 25 octobre et jusqu'à fin juillet pour interroger la face cachée des technologies avec Dopamine, une exposition qui réunit les œuvres d'une vingtaine d'artistes qui pensent le futur numérique. Les 28 et 29 novembre, le metteur en scène de La Cerise de Tchekhov, Simone Adigna Anoukaï, avec la compagnie Chimera, occupe le Cube Garges pour y faire vivre la musique, le théâtre, les mouvements et les arts numériques. Au fond, je crois que l'Inno devait partir. Je suis même heureux que l'Inno ait quitté Garges. Le Cube a pris sa place pour s'ancrer vraiment dans l'époque et pour devenir à la fois un nouveau cœur et un nouveau poumon culturel pour cette ville de 40 000 habitants seulement à 15 km de Paris. Pour moi, l'Inno suivait son époque. Le Cube Garges et Nemo, eux, sont à l'avant-garde. Pour conclure, dans une époque qui va vite, je suis persuadé qu'il est important d'avoir un phare comme celui que le Cube Garges représente ici en Île-de-France.
Merci Fabrice pour ce focus très perso sur le Cube Garges.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et maintenant, plongeons dans l'infiniment petit avec l'univers de Caroline de l'Étoile. Hugo, tu t'intéresses à son travail sur la physique quantique.
Eh oui, bonjour Caroline.
Bonjour Hugo.
Donc, dans ton exposition nommée Sensations quantiques, qu'on peut retrouver à la Quantique des Quantiques, à cette biennale, il y a une de tes œuvres où on explore un peu toutes les représentations de la physique quantique par les gens. Donc, je vais partir de là, parce que pour moi, la physique quantique, c'est l'infiniment petit. Donc, comment on représente l'infiniment petit en art ?
Eh ben, c'est une très bonne question. C'est justement la question à laquelle on a cherché à répondre et sur laquelle on a proposé l'idée de donner une sensation de l'étrangeté de ce monde, parce que c'est un monde invisible et comment représenter l'invisible en effet. Et donc, on a travaillé là-dessus avec une physicienne quantique, Aurore Jung, qui est au Collège de France, et une philosophe des émotions, Céline Boisserie-Lacroix. Et donc, on s'est dit, comment on pourrait donner à toucher du doigt en fait, ce qui est très déroutant dans cet univers des atomes, c'est que c'est un monde dans lequel les règles et les lois de la nature changent complètement. On défie l'intuition dans les comportements de ces objets et comment on donne à toucher du doigt cette étrangeté. Et donc, on est parti d'un des grands principes qui est l'observation, finalement, la mesure, la question de la mesure et de l'observation de ces atomes, cet infiniment petit, complètement invisible, ou alors pour le rendre visible, il faut faire des expériences qui vont être énormes, hyper complexes, qu'on mène dans les laboratoires de recherche. Et l'idée que quand on observe un atome, cet atome va changer parce qu'on l'a observé. Et qu'il y a une intrication entre l'objet observé et l'observateur. Et ça, c'est un peu le point de départ de comment on vient finalement observer ce monde et le reconstruire. Et donc nous, on est parti sur un parallèle avec les souvenirs. Il y a un thème qui traverse ma recherche picturale. J'aime beaucoup l'archive, j'aime bien les photos de famille, les anonymes, tout ça, c'est quelque chose qui me touche et qui me parle. Et donc on s'est dit, finalement, quand on va se souvenir d'un repas de famille, la personne qui se souvient, vous, Hugo, moi, va avoir un point de vue différent. Et donc ça va dépendre finalement de la personne qui se souvient. Et à chaque fois qu'on va se souvenir, on va se souvenir un peu différemment. Et donc on va reconstruire petit à petit ce souvenir et on va reconstruire cet objet. Et à la fin, on en aura quand même une vision complète. Et donc on est parti comme ça d'une scène de famille, d'une archive, du musée de la photo, le musée Niépce à Chalon, avec qui on a travaillé. Et c'est une scène, comme ça, c'est un repas dans les années 50, et c'est une famille à table. On s'est dit, tout le monde peut se projeter à peu près dans un repas de famille. Et on invite les visiteurs à, comme ça, reconstituer, reparcourir un souvenir avec des images fragmentées dans les airs qu'on a fait suspendre. Et on les invite à une traversée poétique, comme ça, dans la peau, finalement, d'un chercheur ou d'une chercheuse quantique.
Oui, puisque un chercheur doit finalement, à partir d'un morceau d'un atome qu'il observe, reconstruire tout son environnement, c'est ça ?
Oui, ça. En fait, on a à chaque fois qu'une vision parcellaire, donc on observe, mais on n'observe pas tout. On l'observe l'objet, mais on l'observe sous une facette, en fait. Et donc, il faut reconstituer toutes les facettes. Et c'est que comme ça qu'on pourra avoir la clé, une des clés de ce monde invisible. Et en fait, parce que c'est un monde finalement, alors c'est un peu l'épouvantail, hein. Tout le monde a de la science, ça fait peur à tout le monde, tout le monde a une vision différente ou pas de vision du tout. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on met en avant dans l'exposition. J'ai perdu le fil, alors attends.
Vous disiez que chacun avait une vision différente dans l'exposition.
Chacun a une vision différente.
Merci Caroline. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez trois donc à avoir participé à la création de Sensations quantiques. Comment ce travail, en comment il s'est construit ? Je dis les trois personnes. Donc il y avait Caroline de l'Étoile, Aurore Jung et Cécile Boisserie-Lacroix.
Céline Boisserie-Lacroix, oui. Et aussi le scénographe Kevin Le Bouvier, parce qu'en fait finalement quand on avait aussi un réalisateur, un musicien, mais quand on rentre dans une exposition comme ça, finalement la façon dont on va construire le parcours et donc mettre en espace, ça c'est finalement cette partie prenante de tout ce cheminement pour que les gens puissent vraiment ressentir ce parcours et cet univers et cette étrangeté quantique.
D'accord. Et donc, à l'instant, on a parlé un peu de toutes les visions de physique quantique des personnes, mais pour vous, c'est quoi la physique quantique ? Pour vous, personnellement, votre vision à vous ?
Alors, pour moi, elle va être assez terre-à-terre, hein, parce que j'ai passé trop de temps dans les laboratoires, malheureusement. Donc pour moi, c'est le pan de la physique qui étudie les propriétés des particules. Voilà. Mais c'est aussi une fenêtre vers un envers du monde qui vient, qui est, qui nous rend très humbles face à la compréhension de la nature. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment le mystère. Et c'est ça que je trouve très beau dans cette science, finalement.
D'accord. Oui, puisque vous parliez des laboratoires, j'ai vu en feuilletant un peu votre description que vous avez une formation de mathématicienne, il me semble.
Alors, il y a longtemps. Oui. Il fut un temps. Un temps où j'ai été étudiante. et j'ai fait des maths, effectivement, et de la physique.
Et c'est quoi le lien entre, justement, être scientifique ou avoir une expérience scientifique et être artiste aujourd'hui ?
C'est une très bonne question. Et finalement, il y a vraiment un vrai parallèle, moi, que j'ai trouvé, surtout dans les laboratoires, quand on pousse les portes. Il y a ce sujet de la recherche, où on vient se poser des questions, essayer de répondre à un problème, et après, on vient construire petit à petit, avec des bouts de ficelle, des briquets de broc. C'est très bricolage, un atelier, un laboratoire, et ça retrouve l'atelier d'artiste. Et dans ces démarches, on est dans de la construction à la fois intellectuelle, mais aussi très manuelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment en parallèle, et que d'ailleurs on montre là dans l'autre partie. Donc il y a une vision poétique de l'atome qui est ici à Nemo, mais on peut pousser les portes du laboratoire au Collège de France dans une exposition qui est intriquée avec celle-ci et qui donne à voir ce monde étrange et merveilleux qui sont ces gens, ces scientifiques qui au quotidien viennent chasser les atomes. Ben, ça, c'est ce qu'on montre là-bas.
D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième partie, du coup, le titre de cette biennale, c'est Les illusions retrouvées. Est-ce que la physique quantique, il y a une illusion quand on parle de physique quantique ?
Alors déjà, la physique quantique, c'est une illusion, parce que ça nous montre un monde qui fait encore s'interroger au quotidien les scientifiques. Enfin, il faut accepter de ne rien comprendre. Et plus on comprend, moins on comprend. Donc, enfin, non, c'est une illusion de la compréhension, parfois. Mais c'est vecteur de plein de promesses. En fait, nos appareils et nos smartphones, ça fonctionne grâce à la physique quantique. Donc, c'est dans notre quotidien. Et il y a de nombreuses applications sur lesquelles les chercheurs travaillent, chercheurs et chercheuses, avec beaucoup de promesses, notamment, bon, bien évidemment, l'ordinateur quantique, mais pas que. Et c'est vraiment ça qui peut-être nous amène à d'autres illusions retrouvées.
Et derrière illusions retrouvées, il y a la question des utopies.
Oui.
Vous venez de parler de l'ordinateur quantique, mais est-ce que le quantique est porteur d'autres utopies que l'ordinateur quantique ?
Alors, il y a l'utopie de comprendre le monde, il y a l'utopie tout ce qui a touché à la crypto, à pouvoir casser tous les codes. Enfin, il y a beaucoup de projets comme ça qui sont des rêves. Sinon, il y a tout simplement l'énergie infinie. Enfin, ça, c'est vraiment une des grandes quêtes, c'est un des graals. Hein. Il y a l'ordinateur quantique, mais il y a l'énergie infinie avec la supraconductivité, qui est finalement un conducteur sur lequel on va faire passer de l'énergie et il ne perdrait pas d'énergie. Et ça, c'est la magie. Hein. Enfin,
je vais faire semblant d'avoir compris. Non, allez-y, continuez.
Et donc, c'est une des quêtes. Voilà, c'est une des quêtes. Mais par contre, en fait, entre aujourd'hui et l'ordinateur quantique, est-ce qu'on y est ? Là, c'est peut-être une utopie, hein, parce qu'on n'y est pas encore du tout. C'est des systèmes très, très complexes, avec des grands frigos, d'infrastructures pour maintenir et fabriquer des petits qubits très volatiles. Donc on n'a pas encore la clé de tout ça.
OK. Il nous reste pas trop de temps sur cette interview. J'aimerais revenir sur la question du souvenir.
Oui.
Du coup, à travers votre exposition, vous faites un parallèle entre le souvenir et le quantique. Comment, en fait, d'où ça vient cette idée ? D'où est venue cette idée ? Est-ce que le souvenir, ça occupe une place importante pour vous ?
Alors moi, dans ma démarche, ça a une place importante. Et après, l'idée, c'était de faire un parallèle avec l'émotion, parce que finalement, le souvenir et les photos d'anonymes, tout le monde peut un peu se projeter. Et c'est de créer un lien finalement très humain dans une science qui est très désincarnée. Et par ce biais, arriver à toucher du doigt des phénomènes de la physique quantique.
D'accord. Et donc, ce que j'aimerais vraiment savoir, la place du souvenir, est-ce que elle, dans votre œuvre artistique, elle occupe une place plus grande que simplement la sensation quantique ?
Moi, oui. Pour moi, c'est très important. En fait, j'ai eu une autre vie avant, et un des éléments qui a quand même déclenché qui était au cœur de ma démarche, c'est qu'un jour, en fait, j'ai appris par un coup de fil que ma maison de famille avait été vidée la veille et que tout était parti à la poubelle. Donc, quand on se réveille comme ça et qu'on n'a plus de souvenirs, finalement, qu'est-ce qui reste de toutes ces traces ? Et c'est un fil que j'ai commencé à tirer et à travailler, notamment avec des photos d'anonymes et cette mémoire un peu commune du très commun, des événements du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche et en tout cas que que j'aime travailler dans ma peinture.
D'accord, merci beaucoup. Je crois que l'interview est terminée, donc oui. Je vous remercie Caroline de l'Étoile et je rends l'antenne au merveilleux Léa et Fabrice.
Waouh, c'est beaucoup, incroyable. Hugo. Merci Caroline de l'Étoile. On a eu l'occasion hier de discuter et c'est vrai que pendant une dizaine de minutes, j'ai replongé dans mes cours de sciences de mon ancienne vie, donc c'était intéressant. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir fait découvrir cet univers infiniment petit. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Radio Campus Paris sur Internet et en DAB+, et vous êtes avec nous à Paris, au 104 rue d'Aubervilliers pour l'inauguration de la Biennale des Arts Numériques avec la région Île-de-France. Et maintenant, dézoomons et revenons à notre échelle. Léa, là, avec tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de parcourir, qu'est-ce que ça fait là dans ton cerveau ?
Ah bah là, j'ai l'impression qu'on me fait voyager alors que physiquement, je ne bouge pas. Et je crois que c'est un peu l'objectif de cette biennale, c'est de pouvoir rentrer dans des mondes qu'on ne soupçonnait pas et d'en ressortir un peu différent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et quand je suis allée visiter. Et puis, c'est ce que je ressens quand j'entends tous ces artistes qui parlent aussi de leur univers. Parce qu'en fait, ils ont chacun leur credo, chacun leur raison. Et c'est vrai que c'est génial de plonger dans leur réalité, quoi. Et toi, t'en penses quoi ?
Une fois encore, c'est ce que je disais, le fait de l'avoir parcouru hier, ça permet quelque part au fond de voir un peu tout ce qui évolue. Et le fait, par exemple, d'avoir écouté Caroline de l'Étoile qui a parlé de ses différentes vies et qui montre, par exemple, à travers la science, comment est-ce que la science, la physique quantique a alimenté aujourd'hui tous ces projets créatifs, artistiques qu'elle apporte au cœur de la Biennale. C'est ce qui fait que derrière, voilà, on se retrouve avec des œuvres qui prennent en main l'intelligence artificielle, qui la font évoluer et qui permettent en plus de constituer cette Biennale-là. Et en plus, qui font quelque part interroger ce qu'est une utopie, ce qu'est une dystopie. Très vite, on arrive à cette interrogation-là qui arrive et qui est autour de la table.
Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette diversité des discours, puisque on entend tout le temps le mot intelligence artificielle, c'est presque le gros mot du quotidien. Et en fait, aujourd'hui, on est là, on écoute David Pourinou qui dit « mais en fait, c'est génial, on peut créer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant ». Enfin, vraiment, on peut s'emparer aujourd'hui de cet outil pour pouvoir créer des nouveaux mondes, de nouvelles visions. Et ça fait du bien aussi d'avoir cette cette position un petit peu plus fraîche. Et puis, c'est ce que disait tout à l'heure aussi Gilles Alvarez, c'était de vraiment proposer quelque chose de frais, de nouveau, qui te fasse voyager. Je crois que pour l'instant, le pari est réussi.
Plus que réussi. D'ailleurs, je pense à David Pasgan qui nous présentait le mégamix du Louvre-Lens. Et là, pour le coup, ça fait communiquer le passé avec le futur. Se dire aussi que finalement, il y a des œuvres musicales qui peuvent se retrouver les unes à côté des autres, même si elles n'ont rien à voir. Et pareil, ça réinterroge. On se dit différemment, quel type d'utopie est-ce qu'on a envie d'avoir, tout simplement.
Et puis on a vraiment ce pouvoir de créer toutes les utopies, et je crois que c'est un peu aussi un des messages subliminaux de cette biennale. Il n'existe pas qu'une seule utopie, puis de toute façon comme elle n'existe pas, je crois qu'il en existe autant qu'il existe d'imaginaires et donc de personnes qu'il y a sur cette terre. Donc c'est intéressant de se plonger dans chacune de ces versions. Je ne sais pas si ça va changer notre quotidien tel quel, en tout cas ça peut peut-être changer des idées. Et c'est généralement le plus gros des paris qu'on essaye de faire quand on crée quelque chose. Donc
c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Effectivement, merci Léa et merci tout le monde. Nous revenons vers vous plus tard. On va faire une petite pause. Je vous propose d'aller voir le temps de cette pause musicale, ce que la vie nous réserve. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la voix de Feu Chatterton, Arthur Théboul sur Radio Campus Paris.
Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. donne-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main.
C'était Allons voir du groupe Feu Chatterton avec au chant Arthur Théboul, accompagné de Sébastien Wolf, Clément Domic, Raphaël de Précigny et Antoine Wilson. Allons voir, le titre date de cet été.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Allez, continuons ensemble notre émission spéciale. Pour rappel, nous sommes toujours au 104, en plein cœur du lancement de la Biennale des Arts Numériques organisée par la région d'Île-de-France. Et nous sommes au micro de C'est dans l'art. On a eu le plaisir d'accueillir jusqu'à maintenant trois artistes et le directeur artistique de la Biennale. Et maintenant, c'est au tour de Ryan de rencontrer Donatien Aubert pour parler de ses œuvres hybrides.
Oui, son court-métrage « L'héritage de Bentham » montre comment la pensée du philosophe du XVIIIe siècle, Jérémy Bentham, a façonné la société de surveillance aujourd'hui. Bentham, d'origine britannique, c'est le théoricien du panoptique, l'idée de voir sans être vu. À l'origine pensée pour prévenir le crime, il imagine une prison ronde, au centre, une tour de surveillance depuis laquelle chaque prisonnier peut être aperçu. Surveiller pour prévenir la mauvaise action, réformer moralement l'individu par l'idée qu'il est épié, et ainsi lui ôter la pensée même de faire le mal. Certains lui attribuent donc une paternité indirecte avec Big Brother, Secret Story et autres émissions d'enfermement. Et si Bentham, c'était aussi la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, les cookies des sites internet, bref, la traçabilité permanente des individus. Certes, mais pas que, nous dit mon invité, auteur, chercheur, artiste plasticien et cinéaste, il projette ici même à la Biennale l'héritage de Bentham, donc un court-métrage qui retrace les legs de la pensée du philosophe dans nos sociétés. Alors Bentham, bourreau ou émancipateur, on en parle avec son réalisateur Donatien Aubert. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bravo pour cette très belle introduction.
Je vous en prie. Bentham est plus connu pour l'invention du panoptique, une prison, que pour la portée émancipatrice de ses idées, vous dites. Pourquoi ?
Oui, tout à fait. Alors en France, on connaît bien la figure de Bentham grâce à Surveiller et punir de Foucault, où il décrit très précisément le fonctionnement du panoptique. Néanmoins, Bentham, c'est aussi le père fondateur de l'utilitarisme, qui est une doctrine philosophique qui devait permettre l'optimisation de la répartition des plaisirs dans la société. Et Bentham, dans ce contexte, avait même écrit un algorithme qu'il appelle le calcul félicifique. Alors, c'est le paradoxe qu'incarne ce philosophe. Il a vraiment une personnalité duale. Il est à la fois l'une des figures de la Révolution. Hein. Il a été fait citoyen d'honneur par la toute jeune Première République française en 1792. Il a pour objectif d'émanciper les le jeune peuple démocratique, et il s'imagine que grâce à des dispositifs légaux, il serait possible d'émanciper les colonies, de parvenir à l'abolition de l'esclavage. Il espérait aussi la dépénalisation de l'homosexualité, et même au XVIIIe siècle, il rêvait un droit des animaux. Donc c'est vraiment une figure importante, si vous voulez, des philosophes des Lumières. Mais effectivement, il a une part plus sombre, puisqu'il s'imagine qu'il est impossible, dans des sociétés qui sont authentiquement pluralistes et démocratiques, que tous les individus qui participent à cette société s'entendent dans la plus grande cordialité. Il imagine une augmentation de la conflictualité. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois avec le développement des technologies de communication. On peut penser aux plateformes de réseautage social, par exemple, qui augmentent la polarisation de la société. On est vraiment dans la projection, pour le coup, qu'avait Bentham. Et cette conflictualité augmentant, il estime nécessaire de réguler les comportements des individus par le panoptique, justement. C'est là où ça devient plus vertigineux et même terrifiant, puisque Bentham ne s'imagine pas le panoptique que comme un espace carcéral. Il pense qu'il est possible de l'étendre à toute la société. Il s'imagine le panoptique applicable dans les écoles, enfin le dispositif lui-même, hein, dans les écoles, les usines, le système politique lui-même. Enfin, il estime qu'il devrait être moral, que personne n'échappe au spectre de la surveillance. Et à ses yeux, ça devait permettre aux dirigeants eux-mêmes de se soumettre à la volonté populaire, quelque part. Ça devait, grâce à ces outils de surveillance, le pouvoir, normalement, devait pouvoir rester démocratique, en fait. C'était son ambition de départ. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est largement asymétrique dans la répartition du pouvoir, avec des entreprises qui détiennent un pouvoir économique qui est supérieur à certains États, en particulier dans le champ du numérique. Et donc, ça pose plein d'interrogations concernant la prolongation de son idéal. Et lui-même s'en inquiétait. Il avait peur qu'effectivement, si les organisations politiques ne maintenaient pas leur transparence, alors le pouvoir serait cédé à une oligarchie. Enfin, il l'exprime vraiment comme ça.
Alors, ce qu'on a retenu de Bentham, c'est surtout cette vision de transparence poussée à l'extrême et de surveillance des citoyens. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez réhabiliter un peu Bentham avec ce court-métrage ?
Le but, c'est de restituer qui il était vraiment, c'est-à-dire quelqu'un avec une philosophie plutôt contrastée. Je pense qu'il a été assez mal comprise finalement en France, notamment par l'excellent texte par ailleurs de Foucault à son sujet dans Surveiller et punir. Mais le but, si vous voulez, c'est plutôt d'expliquer en quoi finalement, d'entrée de jeu, au XVIIIe siècle, lorsque les grandes philosophies politiques qui ont concouru à l'émergence du libéralisme se sont imposées, eh bien, on pouvait trouver d'ores et déjà les prémices de l'instauration d'une société qui allait extensivement s'appuyer sur la surveillance, justement.
C'est donc un héritage à deux visages que vous montrez. Il faut faire un inventaire.
C'est ce que vous faites. Oui, c'est tout à fait le but. En fait, l'enjeu du film, c'était aussi de montrer en quoi sa pensée s'actualisait aujourd'hui. Donc Bentham, c'est à la fois un des penseurs principaux au XVIIIe et au XIXe siècle du plaisir. Et il a largement contribué à favoriser la création d'une société où l'injonction au plaisir serait dominante, si vous préférez. Et ça, c'est aussi une société dans laquelle on vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous prenez Sean Parker, qui était le président éphémère de Facebook, à un moment où The Facebook, à l'époque, à un moment où Zuckerberg, en 2004, ne voulait pas s'en occuper, il a conçu le rafraîchissement du mur d'actualité de The Facebook, justement. Et si vous voulez, il a popularisé notamment le geste qu'on a tous habituellement maintenant sur nos smartphones pour rafraîchir les fils d'actualité où d'un doigt on pousse les fenêtres interactives vers le bas, par exemple. Et ça lui a été directement inspiré par le comportement des joueurs et des joueuses de machines à sous dans les casinos. Il s'est dit, il y a une boucle addictive qui se crée. Manifestement, ça doit stimuler leur circuit dopaminergique. Ce serait intéressant de voir si on pourrait reproduire algorithmiquement la même chose pour nos applications. Il a été très surpris par le succès que ça a remporté. Il s'en est même excusé après abondamment dans de multiples conférences. Bon, par ailleurs, c'est l'un des principaux actionnaires de Meta, donc évidemment, ses excuses s'entendent.
Excuse à moitié.
Mais voilà, c'est ça. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, ces évolutions dans le champ des industries numériques, elles reflètent très exactement la pensée de Bentham. C'est-à-dire que ces entreprises nous impose une injonction à ressentir du plaisir, on nous pousse à rafraîchir nos flux d'actualité, consulter des profils, etc. Ça stimule effectivement notre circuit dopaminergique, mais tout cela se fait au prix de notre suivi, de notre profilage. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, on ne s'est pas vraiment émancipé justement de l'imaginaire benthamien. Et le but du film, c'est de le réinterroger en profondeur.
Alors vous avez mêlé pour ce court-métrage qui est juste en face, que je vous conseille, les prises de vue traditionnelles aux images de synthèse, et vous avez même eu recours à l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde de l'art. Comment vous l'avez utilisé, cette IA? Est-ce que vous vous êtes posé des questions?
Alors, l'ensemble du film a été tourné dans un studio de production virtuelle, ça veut dire avec des panneaux LED derrière les comédiens et les comédiennes, à la différence de l'usage de fonds d'incrustation classique où vous avez la couleur du fond d'incrustation qui a tendance à se réfléchir sur les peaux, les costumes, les accessoires. Là, ça vous permet d'entrée de jeu de classer les comédiens et les comédiennes dans les décors du film. Ça leur donne aussi un point référentiel, si vous préférez. Et tous ces décors ont effectivement été créés par intelligence artificielle. Le but, par cette démarche, c'était aussi d'évoquer la manière dont les images de l'IA sont produites aujourd'hui par des générateurs. En fait, si vous prenez les principaux générateurs qui existent aujourd'hui, ils ne peuvent fonctionner que parce qu'ont été passés au peigne fin des milliards d'images et qui, principalement, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce d'intérêt pour chroniquer ces évolutions que d'utiliser l'IA, puisqu'elle-même tire parti de ces industries.
Alors, à l'origine, vous êtes plasticien. Là, vous faites un court-métrage, un second, si je ne me trompe pas.
Non, c'est au moins le cinquième.
Au moins le cinquième, très bien. Génial. Qu'est-ce que le format du court-métrage permet que les matériaux ne permettent pas?
Alors, classiquement, dans mon travail, j'essaie toujours de... Bon, là, c'est peut-être un peu moins le cas, puisque... L'œuvre vidéo prend beaucoup plus de place que la sculpture du panoptique, qui est aussi visible dans l'installation. Mais classiquement, j'essaie toujours d'équilibrer des propositions plastiques avec, d'un côté, effectivement, des dispositifs sculpturaux, des installations interactives, parfois de l'holographie, de la réalité virtuelle, et un film. Si vous voulez, le but pour moi, c'est souvent un peu de tendre une espèce de piège au public où je vais essayer, à travers la finesse des sculptures proposées, de créer une espèce de ravissement esthétique chez le public. Et après, le but du film, c'est vraiment de leur permettre de se déprendre complètement de la fascination première qu'ils avaient pour les sculptures à travers généralement une espèce de bilan historique ou une réflexion sur les conséquences anthropologiques de la diffusion de certaines technologies, par exemple.
Il n'y a pas que le court-métrage d'ailleurs dans la salle, il y a aussi une maquette imprimée en 3D.
Oui, tout à fait.
La prison, la fameuse prison panoptique de Bentham. Qu'est-ce que ça veut dire de l'avoir installée? Quel est le message derrière?
Alors, en fait, il y a eu beaucoup de dessins réalisés du panoptique. Tout récemment, il y a certains chercheurs qui ont essayé de la remodéliser en 3D. Mais pour le moment, à ma connaissance en tout cas, je n'en avais jamais vu de maquette. Et ça permet vraiment de bien comprendre, si vous préférez, à quoi ressemblait cette architecture et comment fonctionnait la surveillance au sein de cet espace. Ce qui était important pour moi, si vous voulez, pour bien situer tous les enjeux, les tenants et les aboutissants du projet de Bentham.
Vous auriez aimé vivre dans une époque sans Internet?
Non, pas du tout. Je suis ravi de...
Il y a une vision sombre un peu des dérives.
Oui, bien sûr, mais si vous voulez... Aujourd'hui, il y a des problèmes démocratiques qui se posent en raison de l'extension du pouvoir des grandes industries du numérique. On peut penser, par exemple, aux jeux étranges que peuvent jouer des chefs d'entreprise aux États-Unis en travaillant directement... avec Trump, on peut penser à Elon Musk par exemple ou Peter Thiel. Bon, si vous voulez, ils détiennent des entreprises qui ont un pouvoir économique qui est supérieur au pouvoir économique de certains États. Et donc effectivement, de ce point de vue-là, en termes de liberté publique, ça pose des questions qui sont assez vertigineuses. Si on s'intéresse à Meta par exemple et Zuckerberg, aujourd'hui, beaucoup de chroniqueurs sont surpris de son rapprochement avec Trump, de son affichage d'opinion masculiniste. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez ancien. Il avait déjà été approché par Steve Bannon pour profiler les intentions électorales des citoyens et des citoyennes américaines en amont de l'élection de 2016. C'était le scandale Cambridge Analytica. Meta a dû payer des amendes considérables parce qu'il est illégal aux États-Unis d'utiliser les données de profilage à des fins électorales. Et ça, évidemment, quand on réfléchit à ces questions, Il est légitime d'avoir des inquiétudes, si vous voulez, pour la poursuite de l'aventure démocratique quand vous avez des entreprises qui cherchent vraiment, de manière délibérée, à les miner de l'intérieur, si vous préférez.
Une dernière question. À côté de l'héritage de Bentham, vous avez réalisé des dizaines de sculptures et œuvres plastiques. Vous avez souvent articulé la technologie et la nature, deux mondes qu'on oppose souvent. Pourquoi ça vous inspire autant, l'articulation de ces deux facettes ?
Au cours de mon travail, j'ai eu beaucoup l'occasion d'interroger la manière dont les nouvelles technologies transformaient la société. Les technologies numériques, elles ont à la fois transformé la manière dont on produit, partage, met en circulation des connaissances, des opinions, des expériences esthétiques. Donc ce qu'on vit, c'est à la fois un changement qui est épistémologique, politique et sensible. Et de ce point de vue-là, ça m'a poussé à m'intéresser beaucoup à certains courants technoscientifiques et à l'ampleur de leur influence sur la société. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la cybernétique, par exemple. La cybernétique, c'est un mouvement technoscientifique des années 40-50 qui est né outre-Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a notamment intronisé le concept de feedback, qui a créé des homologies assez discutables entre les neurones et les transistors, mais qui a aussi eu un impact considérable dans le champ de l'écologie scientifique. Et donc, à l'occasion des jardins cybernétiques, j'avais un peu interrogé ce rapport entre justement la cybernétique et l'écologie. Il faut savoir que les premières simulations informatiques qui ont permis d'anticiper les évolutions du climat, elles ont été produites justement par des personnes qui étaient directement inspirées par la cybernétique. Donc le partage du monde, la représentation du monde, en un ensemble thermodynamique, le découpage de la biosphère en écosystèmes, tout ça, ce sont des représentations qui ont été popularisées par les cybernéticiens. Et donc, si vous voulez, dans le travail de chronique du monde contemporain, en passant par, qui chercherait à mettre en perspective différents mouvements technoscientifiques et notamment la cybernétique, je me suis effectivement intéressé au lien entre les débats actuels autour de l'écologie et les débuts de l'informatique, si vous préférez.
Merci beaucoup, Donatien Aubert.
Avec plaisir.
Donatien Aubert au micro de Ryan. Merci à tous les deux. L'héritage de Bentham à voir à Paris au 104 dans la Halle Aubervilliers, partie Renaissance. Allez y faire un tour. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Radio Campus Paris sur Internet et en DAB+, et vous êtes avec nous à Paris au 104 rue d'Aubervilliers pour l'inauguration de la Biennale des Arts Numériques de la région Île-de-France. Hugo, je crois que tu as quelque chose à nous dire.
Eh oui, c'est l'heure de mon petit billet d'humeur. Alors, je dois vous avouer que quand Fabrice m'a demandé de faire un billet d'humeur, je ne savais pas trop par quoi commencer. Donc je suis parti du titre de cette édition de la Biennale, « Les illusions retrouvées », qu'on pourrait traduire en « recroire dans les utopies ». Mais alors, en quelle utopie croire ? Eh bien, j'en sais rien. Par contre, je sais comment y croire. Parce que oui, même si le capitalisme, c'est de la merde, on n'a pas forcément une idée précise de par quoi le remplacer. Mais justement, on n'en a pas besoin. Croire en l'utopie, ce n'est pas croire en une utopie unique. Pour construire un nouvel avenir, un futur souhaitable, un avenir retrouvé, pour moi, il ne faut pas se fixer à une seule idée. Bien au contraire, pour y croire, il nous faut embrasser cette infinité de chemins, de possibles, pour pouvoir, ensemble, construire un futur en commun. Mais alors j'entends déjà les plaintes de Fabrice en mode « Oui, mais moi je suis vieux et déjà inquiet du présent, je peux pas penser à l'avenir !» Et certes, j'entends. Oui.
D'ailleurs, je prends une année de plus la semaine prochaine et tu ramèneras le gâteau pour l'occasion.
Allez, vendu. Et certes, j'entends ces critiques. Oui, on est face à une montée du fascisme. Oui, les temps sont durs. Oui, la région Île-de-France supprime ses subventions au mouvement s'affirmant anti-réactionnaire comme la Pride alors qu'elle continue d'arroser le lycée privé Stanislas de subventions alors qu'on sait que le lycée est giga-raciste et homophobe. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? C'est pas moi. Je vise personne. Mais ça veut justement pas dire qu'on doit arrêter de rêver, arrêter de lutter. C'est même la raison pour laquelle on doit continuer à y croire. Car justement un jour, ces illusions retrouvées n'en seront plus. Ni une illusion, ni utopie. Mais une réalité qu'on sera en train de construire ensemble.
Merci beaucoup Hugo pour ce mot très personnel. C'est vrai qu'on manque jamais d'énergie avec toi, donc c'est toujours un plaisir.
Sculpture.
Littérature.
Musique.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Allez, à présent, nous continuons notre émission spéciale avec une nouvelle interview. Nous allons plonger dans un univers qui mêle art, technologie et nature. Mathilde tend son micro à Juliette Lefay pour Figital Studio.
Bonjour Juliette et bienvenue à Radio Campus.
Merci, bonjour Mathilde.
Tu as suivi une formation d'ingénieur dans laquelle tu t'es constamment questionnée sur la relation de la technologie avec la nature. Et puis tu as co-créé l'entreprise Figital Studio avec Théo Brice et aujourd'hui Neil a rejoint l'aventure. On aimerait que tu nous parles de votre œuvre exposée au 104 Paris dans le cadre de la Biennale Nemo qui est inaugurée aujourd'hui. Alors tout d'abord, tu as cofondé le Figital Studio avec Théo Brice. Est-ce que tu peux nous parler de sa genèse et de la raison pour laquelle vous l'avez créé ?
Alors Figital Studio, c'est en effet un studio que j'ai cofondé avec mon collègue Théo. Et on a été rejoint par Neil Draloskona récemment. Donc on est trois aujourd'hui dans ce studio-là. Et on vient utiliser la technologie, non pas pour nous couper du réel, mais pour mettre en avant le monde physique et la nature. Aujourd'hui, dans la Biennale Nemo, on présente une de nos œuvres qui s'appelle le Plant Being. Plant Being, c'est une installation audiovisuelle qui est en fait entièrement générée par une plante. Donc on vient en fait capter l'activité électrique de la plante, qui est son activité naturelle, et on l'a retranscrit de manière artistique, en son et en visuel, tout ça en temps réel. La particularité de Plant Being qu'on présente au 104, c'est que pour la première fois, c'est une œuvre avec trois plantes, c'est multi-plant being, et donc les plantes vont créer entre elles une symphonie de sons et de couleurs.
Et aujourd'hui, mettre l'intelligence artificielle au service de la nature, est-ce que c'est pour toi quelque chose qui allait de soi ?
En fait, dans cette installation, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et justement, on utilise la technologie créative. On va utiliser des logiciels en temps réel pour générer les sons et les visuels. Mais pour le moment, pas d'IA. C'est pas qu'on est fermé, c'est juste que pour le moment, c'est pas le cas. En fait, une des idées justement de Plant Being, c'est on s'extasie énormément sur l'intelligence artificielle et toute cette nouvelle intelligence qui arrive, et on fait bien en effet, mais peut-être parfois on oublie de regarder un peu ce qu'on a autour de nous, ce qui existe, et de se rappeler justement de l'intelligence naturelle qu'on a envie de mettre en avant dans Plant Being.
Et aujourd'hui, comme tu l'as évoqué au début, c'est votre première installation, si je puis dire, qui est à la Biennale Nemo. Est-ce que ça a un sens d'être ici pour toi, pour vous, votre équipe, au 104? Et est-ce que vous avez un lien avec ce lieu dans Paris?
Oui, on a un lien particulier avec le 104, dans le sens où donc on est un jeune studio d'art numérique et on est incubé cette année au 104 Factory, qui est un des programmes de tout ce que fait le 104. Et donc le 104 Factory, c'est un incubateur pour les studios et les entreprises de l'industrie culturelle et créative. Donc on a bénéficié depuis janvier d'un accompagnement du 104 et on a la chance aujourd'hui de rentrer dans cette ligne directrice de Nemo et donc de pouvoir présenter une de nos œuvres ici.
Et pour que les visiteurs imaginent, visualisent, en fait, il faut se plonger dans le noir face à trois plantes éclairées, comme des rennes, par des jolies lampes en forme de coquillage. Et elles sont reliées, ces plantes, par des capteurs à un ordinateur qui retransmet les ondes, comme celles d'un cœur humain. Et donc, il y a un écran géant qui surplombe cette installation, aux allures un petit peu futuristes, qui met en son et en image la vie de ces plantes. Comment vous avez imaginé Plant Being ?
L'idée, elle vient de mon collègue Théo. Et elle a été inspirée par une expérience d'un scientifique qui s'appelle Cliff Baxter. Cliff Baxter, c'est un scientifique qui travaille à la CIA, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges. Et en fait, les capteurs qu'on met sur les plantes, et donc les signaux qu'on capte et qu'ensuite on traduit, c'est la même technologie. Ces deux capteurs qu'on met, on capte un signal électrique et c'est ensuite celui-ci qu'on retranscrit en son et en image.
Et Clive, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit « Ok, j'ai inventé cette technologie-là. Si je la teste sur une plante, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est rendu compte qu'il avait à peu près les mêmes signaux et il a voulu faire une expérience où il soumettait la plante à un stress. Son expérience était donc de brûler la plante. Et en fait, il s'est rendu compte que la plante avait réagi et avait, du coup, on observait un grand pic de stress, mais non pas au moment où il brûlait la plante, mais au moment où il a eu l'intention de la brûler.
Incroyable.
Et de là, alors c'est pas quelque chose qui est validé scientifiquement, mais bon, alors sa vie à lui a complètement été bouleversée. Il a écrit des livres sur la sensibilité des plantes, etc. Et en fait, c'est nous ce que Théo a retenu en fait, surtout de cette expérience, c'est le côté que les plantes sont peut-être plus sensibles qu'on ne le pense, peut-être qu'elles captent leur environnement et même les personnes qui composent leur environnement et même pourquoi pas jusqu'à leur intention. L'idée de Plant Beings, c'est de dire, ok, si les plantes ont une perception aussi fine que ça, si on leur donnait des moyens de communiquer plus directement avec nous, qu'est-ce qu'elles nous diraient ?
Et justement, il y a ce nom, ce titre, Plant Being, comme Human Being, bien sûr. Et donc, est-ce que c'est un message politique ? Quel message voulez-vous faire passer par cette installation, s'il y en a un ?
Le message, c'est ce côté de voir l'invisible, de se rendre compte de toute cette intelligence naturelle, de réenchanter le vivant, de toute cette ingéniosité qu'on a autour de nous et qu'on a tendance à oublier.
C'est beau, ça fait du bien d'entendre des belles choses comme ça. Et chers auditeurs, je vous conseille d'aller rencontrer ces plantes majestueuses qui sauront vous plonger dans un monde onirique. Juliette, quel conseil peux-tu donner aux visiteurs pour qu'ils communiquent avec les plantes ?
Alors, je pense que déjà dans un premier temps, de réaliser qu'elles sont vivantes, qu'elles ont cette activité, donc qu'on voit varier en son, en image, mais aussi sur un... on a un petit écran qui retranscrit une courbe, donc on voit vraiment cette activité de manière un peu plus formelle. Déjà, de reprendre cette conscience-là, et ensuite, pourquoi pas essayer de s'approcher, de toucher gentiment la plante. C'est des choses qui sont possibles, et après, on voit plein de gens faire plein de types d'expériences, par exemple, leur cacher la lumière, et en effet, ça les fait réagir. Je vous laisserai expérimenter.
Et oui, venez. Et il y a aussi un QR code à disposition des visiteurs s'ils veulent des réponses de scientifiques à leurs questions les plus courantes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces questions-réponses ?
Oui, en fait, pour cette installation, en science, aujourd'hui, on sait pas mal de choses sur la sensibilité des plantes et ce que c'est. Donc, on a collaboré avec un laboratoire qui s'appelle le LEED. Via le CNRS, et donc on a des chercheurs en biologie végétale qui ont répondu un peu aux questions les plus courantes qu'on a. Et par exemple, la première question, c'est qu'est-ce qu'on capte exactement ? Qu'est-ce que c'est que cette activité électrique ? Et alors, il explique mieux que moi, mais pour y répondre brièvement, en fait, cette activité, c'est quand la plante réagit à son environnement, elle va s'envoyer des informations en interne sous une forme de bioélectrique et nous, on va capter le côté électrique. Donc, ce qu'on perçoit, c'est un message, un flux qu'elle s'envoie dans son organisme en réponse à son environnement. Donc, elle réagit plus ou moins à certaines choses.
Mais merci. Et puis, le QR code est à disposition à côté de cette installation. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et je sais que Figital Studio a déjà des idées pour ses prochaines installations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, avant de parler des nouvelles installations, je voulais juste revenir sur le fait que du coup, pour Plant Being, on a collaboré avec plusieurs artistes et scientifiques, donc, dont le LEED, dont les pots que vous allez voir dans l'installation, c'est des pots en mycélium qui ont été réalisés par un biodesigner qui s'appelle Com Di Meglio. Mycélium, c'est l'état racinaire du champignon, donc ça rajoute un côté organique à l'installation en plus, avec un musicien, Yuni, pour le côté musique. Et du coup, pour les futures installations, L'idée, c'est toujours de montrer l'invisible, d'utiliser la technologie pour montrer toute la beauté de la nature et du monde dans lequel on vit. Et ça serait plus autour du son et de tout ce son, comment se le représenter. Donc ça serait sûrement une installation autour de la thématique.
Merci à Juliette Lefebvre d'être venue nous parler de votre œuvre Plant Being à venir découvrir à la Biennale Nemo au 104 Paris. Leur installation est aussi visible dans une autre version à la scène musicale pour les plus curieux.
Merci beaucoup.
Merci Mathilde de nous avoir plongé dans l'univers de Figital Studio qui est très intéressant. C'est un endroit où l'on pense le vivant autrement. C'est vrai que ça donne à réfléchir. Vous écoutez toujours C'est dans l'art, émission spéciale au 104 à l'occasion de l'inauguration de la Biennale des arts numériques. C'est dans l'art, je vous le rappelle, on est une émission de recommandations culturelles et on n'a pas voulu déroger à une règle. Nous proposons toujours un tour de l'actualité avec Jeanne qui ne déroge jamais au poste. Et bien voilà, on fait pareil ici, on vous propose l'agenda de la Biennale qui est à venir. Allez, commençons dès maintenant. D'abord, en Seine-Saint-Denis, la capsule est le siège de l'exposition The After Image.
À partir de mardi et jusqu'au 2 janvier, parcourez l'exposition d'Hugo Desverchères au Bourget, au Centre culturel André Malraux. Il se pose la question suivante. Dans un monde sans humains, que reste-t-il des images s'il n'y a plus personne pour les regarder? Bonne question. Il est question de mémoire, de traces anciennes et d'infrastructures minières ou encore de particules cosmiques.
Et près du lac d'Anguin, le corps devient interface et langage.
Du 15 octobre et jusqu'à fin janvier, Sarah Silverblatt-Buzer performe au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains avec Collective Body, une expérience en réalité virtuelle qui se focalise sur le mouvement pour ensuite être analysée et induire un avatar unique.
Et dans le Val d'Oise, un shoot d'hormones du plaisir.
Fabrice vous en parlait, du 25 octobre au 18 juillet 2026, le cube de Garges-lès-Gonesse est le siège de l'exposition Dopamine. Et pour le vernissage, le 25 octobre, le collectif spim.im et la compositrice Noémie Bucci proposent leurs arts sur scène de 19h à 21h. La compositrice et conceptrice sonore franco-suisse Noémie Bucci joue en son et en vidéo son album Does It Still Matter et questionne l'impermanence du monde matériel ou encore la dimension cyclique de l'existence. Le collectif spim.im, lui, vous embarque en musique sur des sonorités denses, sophistiquées et plutôt industrielles, le tout sous fond visuel généré par intelligence artificielle pensée à réserver.
Dans les Yvelines, un château éphémère s'installe le temps d'un soir sur une ancienne carrière.
Le 1er novembre, à Carrière sous Poissy, de 19h à 23h, vivez une soirée de performance avec du monde sur la scène. Le collectif Fauna, qui présente Strat, Arrive Compagnie et In Vivo 5.12 nous délivre Ubiquity et Paul Vivien exprime sur scène l'harmonie de notre absence. Une soirée pour penser l'utopie à travers le corps, la lumière, le son ou la vidéo, mais aussi imaginer les paysages terrestres après la fin de l'existence humaine ou encore repenser notre interdépendance à la technologie. Une suite de performances à vivre le soir de la Toussaint.
Et cette fois dans les Hauts-de-Seine, deux lieux pour une installation jamais vue.
À Nanterre, à la Maison de la Musique du mercredi 19 au dimanche 22 novembre et ensuite à Sceaux aux Gémeaux du vendredi 28 novembre au samedi 6 décembre, Guillaume Marmin et Jean-Baptiste Cognet exposent l'installation Unseen. Les deux protagonistes vous proposent une expérience inspirée de mécanismes hallucinatoires. Imaginez un espace mouvant où la lumière autour de vous semble vous faire halluciner. Ici, Guillaume Marmin et Jean-Baptiste Cognet interrogent notre rapport à la réalité à tester à Nanterre et à Sceaux en novembre.
Et après une installation jamais vue, un spectacle irréel sur le plateau de Saclay.
Dans l'Essonne, en novembre, samedi 28 et dimanche 29, la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay est le lieu du spectacle This is Unreal, écrit et mis en scène par Lise Santo et Pierre Godard. Un spectacle multidisciplinaire avec de la danse, de la musique et du théâtre pour interroger ce qui sépare vraiment aujourd'hui l'être humain de la machine. Au programme, des objets artistiques générés par intelligence artificielle et un questionnement sur la distinction du vrai et du faux.
On va un peu plus loin dans l'année, en décembre, dans le Val-de-Marne, le lavoir numérique concocte un remède à la solastagie.
Le mercredi 5 décembre à Gentilly, juste au sud de la cité universitaire de Paris, le collectif Les Particules projette et joue un spectacle ainsi qu'une réalité virtuelle au lavoir numérique. Perte de repères, recherche d'une culture du soin où paysages regrettés et disparus constituent la base de la solastagie. Raphaël Gouisset propose un remède par réalité virtuelle où illusion et prise de conscience se mélangent.
Et encore plus loin en janvier, à Boulogne cette fois, l'inframonde se pose sur l'île Seguin.
Le mardi 6 janvier, Louise Abeira et Océane Perrin, les deux créatrices de l'Inframonde, performent en musique au cœur de l'une des plus grandes salles de France, la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Les musiques sont sous le thème de la vie organique, sous terre, en lien avec l'œuvre Plant Being, dans la halle Aubervilliers du 104, là où nous sommes. D'ailleurs, pensez à y faire un tour avant d'aller au concert.
Toujours en janvier, qui est le dernier mois de cette biennale, le grand soir numérique est déclaré à la Philharmonie.
Hugo Arcier, Annabelle Play, Ricardo Giovenito sont entre autres les noms des artistes qui vont se succéder sur la scène de la Philharmonie de Paris le jeudi 8 janvier. 5 œuvres au total sont présentées au public tout au long de la soirée. Les infos sur philharmoniedeparis.fr.
Et enfin, pour finir en beauté, en janvier, au 104 rue d'Aubervilliers,
L'adresse du 104 qui accueille pendant 4 jours du jeudi 8 au dimanche 11 janvier la clôture de la biennale. Et pour ça, 4 performances. Céline Aurel propose Summertime, une pièce de théâtre à San Francisco pendant un été extrêmement dangereux et 30 ans de silence sur scène. Frédéric Delia est le maître d'une conférence qui s'appelle Sleep for Earth, un programme fictif de l'ONU où il est question de science, de vision utopiste et de sommeil collectif de l'humanité. Eric Arnal-Burchi vous propose d'être allongé sur un transat, les yeux fermés pour vivre l'expérience sensorielle d'être une montagne, du vent, de la chaleur ou encore beaucoup de lumière prévue dans cette œuvre pas banale. Et enfin, le théâtre Molière-Sorbonne et le collectif d'artistes en intelligence artificielle vous jouent la pièce inédite de Molière. Juste après, ils vous proposent une conférence sur le thème « La création artistique et l'intelligence artificielle ». Tout se passe et se vit du 8 au 11 janvier au 104.
Merci beaucoup Jeanne pour cet agenda très complet, encore une fois réussi. Maintenant, vous savez tout ce qu'il se passe en Île-de-France pour les trois prochains mois et il y a de quoi faire. Nous allons bientôt accueillir le dernier artiste que nous recevons aujourd'hui et qui donne un concert ce soir à l'occasion du lancement de la Biennale. Fabrice, cette fois c'est toi qui vas tendre le micro à Franck Vigroux. C'est à vous.
Artiste multifacette qui manipule l'acoustique comme l'électronique et qui travaille seul ou en collaboration, Franck Vigroux est avec Kurt Dazeler pour un concert et une performance audiovisuelle, le tout ce soir à partir de 19h30. Le concert sur réservation, et c'est gratuit, mais lui est là pour vous cet après-midi, et une fois de plus, c'est gratuit. Bonjour Franck Vigroux.
Bonjour.
La performance de ce soir s'appelle Thirst, en anglais la soif. Pourquoi Thirst ?
Alors, je ne vais pas répondre de suite.
Quelle excellente première réponse.
Donc, ce projet-là, avec Kurt, qui est sûrement quelque part en train de visiter l'expo, notre idée, c'était d'un peu explorer la thématique du road movie, ouais, ces trucs road novels, aussi, tout l'idée de la route. Et aussi de faire proposer un projet un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire des concerts dits live audiovisuels où l'image et la musique live, le dialogue. Et donc on crée tout un récit en général pour fabriquer un concert. Mais là, cette fois, on voulait faire quelque chose d'un peu plus... On parle de 3D, c'est pas vraiment 3D comme d'habitude le voir. Il y a 3 projections, il y a donc 3 couches d'image. Et il y avait une volonté
qui se superpose sur l'écran.
Alors il y a un tube, il y a tout un jeu de LED, etc. Je vais pas rentrer dans le détail technique, mais donc on voulait pousser un petit peu cette idée-là de faire autre chose qu'un juste un concert avec un écran. Et d'avoir presque une expérience toujours un peu synesthésique, hein, où les deux, l'image, le son, vraiment se rentrent complètement en symbiose, avec cette idée un peu de saturation aussi, dans les couleurs, dans le trop-plein, un peu comme ce qu'on vit tout. On vit autour des écrans, on est saturé un petit peu, pas tout le monde, mais on peut avoir un peu cette donc c'est un peu ce qui a nourri le projet.
C'est important pour vous à chaque fois d'utiliser, de mobiliser plutôt un maximum de sens dans vos créations.
Bah, c'est ce qui nous relie l'artiste vidéo et moi autour, en tout cas, on travaille de manière assez intuitive, mais on a besoin de se nourrir, de dire sur quoi on part. On a besoin d'un concept minimal. Donc là, en l'occurrence, il y avait cette idée de, je l'ai dit, à la fois du truc du road movie qui on s'en est éloigné, et puis aussi de cette saturation de ce qu'on vit, quoi, en général. Hein. Et voilà, donc il a travaillé là-dessus. Moi, j'ai fait aussi travail de musique. On s'est mis à écrire cette pièce.
Voilà. Vous l'avez dit, donc l'artiste et le directeur artistique belge Kurt Dasseler vous accompagnent ce soir. Quelles ont été les différentes étapes de création de cette expérience sonore et visuelle? Vous êtes passé par quelle étape juste avant d'arriver là ce soir?
En l'occurrence, moi j'ai d'abord écrit beaucoup de musique, composé beaucoup de musique, même si c'est... on peut dire que, contrairement à une pièce qui serait totalement abstraite du début à la fin, là il y a des morceaux, on peut dire que c'est morcelé, mais le tout se tient et il y a déjà une dramaturgie à l'intérieur du son. Voilà. Donc, au fur et à mesure du travail, des répétitions, on a ajusté tout ça, les images se sont rajoutées, certaines choses se sont donc additionnées ou soustraites, etc.
Ce soir, le thème de la Biennale cette année, c'est les illusions, retrouver une nouvelle utopie à l'ère numérique. En quoi votre performance de ce soir est en lien avec le thème?
Ça, il faudrait le demander à Gilles Alvarez, parce que c'est lui qui m'a invité. Et qui... Je pense que c'est comme tous les thèmes de Biennale ou de grandes expositions, c'est un peu... Voilà, c'est ouvert, quoi. Donc, chacun va faire son analyse et se décider si oui ou non on rentre là-dedans.
Si vous analysez juste le terme, ça vous fait penser à quoi? Les illusions retrouvées, nouvelles utopies à l'ère numérique. Je ne parle pas de ce qui va se passer ce soir, mais pour vous. Ça vous inspire?
Ah, vous me prenez de court. Ouais. Bon, après, utopie, c'est souvent... devient un peu bateau, parce qu'on voit beaucoup ça dans beaucoup de foire, d'art, de ça. Bon, moi, il fut un temps, j'avais travaillé sur un projet de vous savez qu'Utopie, ça vient de Utopia. Il y a un bouquin de Thomas More, je crois que c'était le 16e siècle, qui a écrit toute une histoire. Il a raconté une possibilité d'une île et avec un système différent, etc. C'est à partir de là. J'avais travaillé déjà là-dessus. Bon, je pense que voilà, si je peux conseiller les auditeurs de lire Thomas More, ça suffit. Après, le reste, le mot a traversé le temps et s'est diffusé.
Avec quoi vous voulez que les auditeurs, spectateurs, et seront les deux à la fois, repartent ce soir après votre performance? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient en tête?
Alors, j'espère déjà, c'est une expérience physique. Puisque projection, son, etc. Mais j'ose espérer qu'ils partent en se disant on vous a raconté une histoire et voilà. Je crois que c'est le cas quand même. C'est pas juste un moment de divertissement pur où j'ai un autre show avec un autre artiste qu'on a travaillé récemment et là on s'est dit on va faire quelque chose qui va être plus pour danser. Il y a un truc tout rythmique tout le temps. Donc ça peut avoir cette fonction-là. Là, il y a un peu des deux. Mais il y a quand même toujours il y a du récit, comme je disais, même s'il n'est pas avec un début, un milieu et une fin, comme un récit classique. Donc voilà, il y a cet espoir qu'il y a en plus un trip.
Justement, le trip, avec ou sans smartphone? Avec ou sans vidéo?
Ah, ça, alors là, je vais pas faire la police du téléphone, ça c'est sûr. Hein? C'est bien pour Instagram, et après pour moi, c'est peut-être mieux sans smartphone. Ouais.
Je pose la question justement parce que pendant un concert, en plus avec une performance live, il y a l'envie d'avoir ce souvenir-là, une vidéo, et on est habitué maintenant en concert de voir des smartphones.
Alors, je vais vous dire un truc, le dernier concert que j'ai fait, c'était il y a une semaine à Taïwan. Et. Donc avec notre artiste qui travaille, Antoine Schmidt, on est face à face, l'écran, et donc on est perpendiculaire à l'écran, on ne voit pas les gens directement, à moins qu'on se tourne. À un moment, je me suis retourné, et là, j'ai vu tout le monde. Il n'y avait pas une personne qui n'était pas en train de nous filmer. J'ai un peu flippé. Mais bon, je pense que tout le monde était content de faire ça, de filmer, donc voilà. Mais ça m'a fait un peu... J'ai vu une image assez surprenante.
Franck Vigroux, vous performez ce soir sur la scène de la Biennale des Arts Numériques, notamment pour l'inauguration. De manière générale, quel est votre rapport avec la musique électronique ?
Alors, déjà, musique électronique, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque mes instruments sont électroniques. Mais moi, j'ai une formation, pas classique, mais presque, et j'ai joué dans plein d'autres instruments, et aujourd'hui, j'utilise des instruments électroniques. Et on parle souvent de musique électronique comme plutôt des musiques un peu qui dominent cette scène, c'est-à-dire techno, ou alors dans tout ce qui est d'obédience club. Mais il y a beaucoup plus de variantes. Et donc, j'ai pas de rapport particulier avec la musique électronique, sinon des instruments électroniques. Mais pour moi, j'ai un rapport avec la musique en général. Tout m'intéresse dans la musique. Et voilà.
Et si on parle d'instruments électroniques ?
Bon, alors après, les instruments électroniques, c'est des outils. Voilà, c'est comme au lieu d'avoir une guitare, ça peut être un synthétiseur ou un sampler. C'est pareil, ça. Tous les chemins mènent à Rome.
Vous avez parcouru la Biennale ?
Pas encore.
Pas après. Encore. Ah, oui. Il y a une œuvre, il y a plusieurs œuvres là qui vous appellent, qui vous donnent envie.
J'ai vu une photo d'une pièce avec qui me rappelle le travail de James Turrell, donc de la lumière, et ça c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse.
Pour la conseiller, donc c'est Anne Bourassé et Mounir Ayash, Le désert de Retz. Ça se trouve dans la partie Renaissance. C'est une pièce particulièrement lumineuse avec des objets architecturaux, et effectivement je vous conseille d'aller faire un tour. C'est un beau spectacle son et lumière.
Très bien.
Merci Franck, et à ce soir au 104 à partir de 19h30, le travail de Franck Vigroux sur son site francvigroux.com et la performance donc de Franck Vigroux et Kurt Dasseler, Thirst, pour l'ouverture de la Biennale, pensée bien réservée.
Merci beaucoup Fabrice d'avoir donné une vision de ce qui va se passer ce soir et d'avoir donné la parole à cet artiste Franck Vigroux à Léon. On avance dans notre émission, on touche presque à sa fin et on voulait pas repartir sans se demander comment ça va, quelle était l'ambiance. Fabrice,
Je dois dire que je suis particulièrement fatigué, que cette émission de 2h08 invités, plein de chroniqueurs, ça a été une préparation assez dense, assez complète, où finalement, on ne sait pas trop où on met les pieds jusqu'à la dernière minute.
Et pourtant, on a toujours des surprises, c'est toujours vivant. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas monté ça tout seul. On a eu une équipe entière de chroniqueurs, l'équipe qui est toujours avec nous dans C'est dans l'art, qui a tendu le micro à des invités tous plus différents les uns que les autres. On a bien sûr, grâce au 104, pu monter tout ça.
Et c'est ce que j'allais dire, grâce au 104, avec juste une demande toute simple de dire on est intéressé par la Biennale des Arts Numériques, on fait une émission, ça s'appelle C'est dans l'art, on traite des œuvres, est-ce qu'on peut venir ? Finalement, on est là et on remercie le 104 pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu l'opportunité hier de découvrir les œuvres, aujourd'hui d'en parler avec les protagonistes, avec les artistes, de creuser un peu plus la question de l'intelligence artificielle. Et je sais pas toi, mais je repars vraiment avec une autre vision des choses.
On repart effectivement avec une autre vision des choses. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller tout visiter, donc je sais que dès qu'on aura raccroché les micros. Si ça, c'est pas une phrase de boomer. Quand on aura éteint les micros, en tout cas, je vais vraiment prendre le temps d'aller visiter tout ce qui se fait. En tout cas, pour nous, c'était une excellente occasion de faire vivre l'art différemment. Nous, vous savez, on veut toujours vous tenir au courant de ce qui se passe dans la région. On veut que vous soyez au fait de ce qui est en train de se faire, de se dire. On aime bien aussi donner un peu nos avis pour justement ouvrir le débat sur des idées qui sont en vogue. Fabrice, je crois qu'encore aujourd'hui, on a un peu réussi ce pari. Qu'est-ce que t'en dis ?
Complètement, surtout que l'idée aussi, c'est d'être avec des bénévoles qui ne pensent pas pareil que nous, qui vont aussi apporter un peu leur pierre à l'édifice, qui vont avoir des visions différentes, qui vont aussi apporter des questions différentes. On l'a vu, je crois, avec tous ceux qui sont passés. Je pense à Jeanne, Isnel, Hugo, Ryan, Mathilde, qui ont apporté des questions différentes qu'on n'aurait peut-être pas creusées. Aussi une autre manière de regarder les œuvres, de les interroger aussi différemment avec ce par quoi on est passé. Toi et moi, on est passé par des formations scientifiques. Ça a résonné quand on a parlé de mécanique quantique. Pour d'autres, ça n'a peut-être pas résonné. Et c'est vrai que finalement, on ressort de là avec davantage d'informations, peut-être davantage d'envie d'aller explorer la région Île-de-France pour voir ce qu'il s'y crée. et aussi penser peut-être demain les illusions retrouvées. Est-ce que toi, tu les as retrouvées, les illusions retrouvées ?
J'ai encore besoin de les explorer un petit peu, mais j'avoue que ça fait renaître des choses en moi, donc c'est un beau pari bien réussi par le 104. En tout cas, l'art, c'est ce qu'on dit toujours, il transforme d'une manière ou d'une autre, avec des images, des formes, du son, et puis parfois des silences, et le fait de rien dire, c'est aussi une forme d'art. Et bien, tout ça, c'est présent au 104 avec l'exposition sur les illusions retrouvées, penser les utopies à l'ère du numérique.
Et penser le futur. Surtout penser, imaginer le futur et se dire, bon, bah, finalement, à partir de demain, on va pouvoir retrouver autre chose.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant. En tout cas, voilà, c'est la fin de notre émission, c'est la fin de ces 2 heures de direct, 2 heures de C'est dans l'art. Alors voilà, ça y est, c'est le moment des merci. Un immense merci aux 104
de ceux qui
nous avoir accueillis en cette journée de lancement de la Biennale des Arts Numériques, édition Les Illusions Retrouvées. Merci également à la région Île-de-France pour les moyens, à l'équipe du 104 pour l'organisation. Mention spéciale à Jeanne et à Manon qui nous ont aidés toute l'après-midi pour mettre en place cette émission et qu'elle se déroule sans accroc. Merci à tous les artistes d'être venus, évidemment au directeur artistique Gilles Alvarez d'avoir donné le holà.
Et puis merci aussi à Anne Bourras et Mounir Ayash, le désert de Rennes, ça se trouve dans la partie Renaissance. Merci à David Passegrand de Inouk pour Hommage à Margaret. Pareil, la partie Renaissance, Margaret Cavendish, le méga mix du Louvre-Lens à aller voir encore et encore. Je vous invite à passer du temps là-bas. Si vous aimez la musique, vraiment, c'est l'endroit où vous devez aller. Merci aussi à Caroline de l'Étoile pour Sensations Quantiques. Redécouvrir la physique, repenser la physique quantique, c'était avec elle. C'est intéressant et on peut toujours le voir encore et encore. Merci à Donatien Aubert pour L'Héritage de Bentham aussi, pour voir peut-être avoir une autre vision de Jérémy Bentham. Merci à Juliette Lefay pour Plant Being. Allez toucher ces plantes, c'est du mycélium, c'est du champignon, c'est impressionnant et en plus ça réagit. Merci à Franck Vigroux ce soir, 19h30. Prenez vos places bien évidemment réservées pour aller voir ce spectacle en son et lumière. C'est avec Kurt Dassler qui vont vous offrir une expérience son et images, ce n'est pas à rater, c'est de 19h à 21h. Qui est-ce que je dois remercier encore? Également toute l'équipe de Radio Campus Paris, bien évidemment la conception, la réalisation de cette émission, l'équipe salariée, les bénévoles de l'émission, mais pas que, pêle-mêle, Océane, Pierre, Philippe, Ryan, Hugo, Jeanne, Mathilde, Isnel et Léa. Bien évidemment toi Léa, sans qui, c'est connu, on le sait très bien, je le dis tout le temps, sans toi je ne serais rien pour avec cette émission-là, vraiment merci
à toi.
Merci à tout le monde, vous le savez mais je le redis encore une fois, c'est dans l'art à réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur radiocampusparis.org. Suivez-nous aussi sur Instagram, c'est dans l'art tout attaché, RCP, c'est dans l'art, RCP tout attaché, je le mets dans l'ordre cette fois. Vous pouvez aller voir tout ce qu'on a posté ces derniers jours, tout ce qu'on a posté cet après-midi. Et puis ceux qui arrivent aussi la semaine prochaine émission dans 15 jours, on vous donne effectivement rendez-vous avec Léa dans 2 semaines, dimanche 26, 20h. C'est dans l'art, c'est U1, dimanche sur 4, à 24h. Et tout simplement pour vous dire, portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.